I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le meilleur du jeu vidéo français est réuni ici aujourd'hui pour vous parler de The Last of Us Part 1, de Immortality, de la Gamescom et du reste de l'actu. C'est tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. Je ferme mon Steam quand même, parce que, faut pas déconner, il faut quand même streamer sur Twitch, faut avoir de la bande passante pour les invités, tout ça. Donc, on est parti pour le rendez-vous jeu où on va vous parler de toute l'actu. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode 258 déjà, et j'ai l'immense plaisir, l'honneur même, de recevoir à nouveau, pour la xième fois, J.K. Loret, qui n'a toujours pas fui. Je comprends pas pourquoi il est encore là, mais il accepte de me supporter. L'argent.
Voilà. C'est la seule raison pour laquelle je reste, Patrick. L'argent et aussi, effectivement, la caisse de champagne que tu m'envoies tous les mois pour me remercier de participer à l'émission. Bref, je te dis n'importe quoi, mais merci, c'est la rentrée. Hein, donc, content de revenir, sachant que le mois dernier, j'étais pas là en plus. Donc, voilà, j'ai raté un mois, je suis bien content. Je suis très content d'être là.
Merci d'être là, J.K. On a aussi qui est de retour parmi nous après une aventure qui a semblé durer des mois. Julie Jeanniot de... j'ai pas dit, mais J.K. il est de JVcom, hein, de jeuxvideo.com, vous connaissez tous. Julie, elle est de Riot et vous la connaissez aussi. C'est quand même pas la première fois qu'elle se livre à l'exercice. Comment ça va, Julie? T'es en forme?
Mais ça va et c'est toujours un plaisir d'être là.
Tu es requinqué, t'as pas pensé jeux vidéo, pas pensé à Internet pendant des semaines et des semaines. Maintenant, t'es en forme.
Exactement, exactement. J'étais près du Mont Blanc, pas sur le Mont Blanc. J'aurais bien aimé, mais pas encore assez sportive. Mais c'est très bien.
Très bien, merci à toi d'être avec nous. Et en invité spécial, comment on dirait à Hollywood, Florian? Special guest
special guest, ouais.
Special guest.
Special guest,
c'est ça. On a Florian qui est là aussi pour nous parler spécifiquement d'un jeu spécifique. Florian qui est chez Les Numériques et du coup que J.K. connaît bien. Donc, vous dites pas du mal de moi dans mon dos. Hein.
Un petit peu. Bah oui, trop tard.
Salut Florian, à la Surolite. Je dis que t'es chez Les Numériques, mais en l'occurrence, t'es là pour un test que tu as fait sur Gamekult. Donc, nous sommes vraiment
protégés. Tout à fait, oui. Là, tout à fait, oui. Bonjour Patrick et bonjour tout le monde.
Bonjour à tous. C'est vraiment tout le meilleur de l'univers du jeu vidéo francophone qui est là. Merci à vous d'être présents. Et les meilleurs auditeurs de la podcastosphère francophone, c'est les nouveaux patriotes qui nous ont rejoints depuis le dernier épisode. Treuillot, Johan Salagnac, Flo et Alexandre Raymond qui nous a carrément rejoints pendant le live. Il y a eu une fête, des feux d'artifice, des applaudissements, la foule en délire qui a commencé à se déshabiller, tout ça. Alors on les a calmés, on les a arrêtés, mais ils ont quand même fait tout ça. Et en plus, Steph Sinalco, qui est le producteur de cet épisode, merci à vous tous. Vous êtes les meilleurs, pas juste des podcasts ou des auditeurs, de quoi, les meilleurs tout court. Ça, il faut le savoir, hein, quand vous devenez patriote, vous êtes les meilleurs humains de la planète. S'il y a des humains ailleurs, bon, ça, on ne sait pas, mais en tout cas, de la planète Terre, vous êtes les meilleurs humains. Donc, merci à vous tous. On a un gros programme et Furolite est pressé. Il a un programme très chargé lui aussi. Et on va se lancer du coup dans les infos principales de la semaine avec du coup les jeux auxquels on a joué. Donc j'inverse le jingle. C'est les jeux auxquels on a joué parce qu'il y a d'une part Immortality que J.K. a testé un tout petit peu. Et, enfin, il y a joué. Et on a aussi The Last of Us Part 2. Et je crois que...
Par 1.
Et
oui.
Et on va commencer par ça du coup avec Furolite qui est avec nous pendant quelques minutes. C'est vraiment un jeu qui n'est pas facile à tester. Ça se ressent dans le test que tu as fait pour Gamekult.
Ça a été un numéro d'équilibriste incroyable.
Ouais, parce que c'est le genre de truc qui est généralement un petit peu décrié. C'est un remake qui vient après un autre remake, qui n'a pas l'air de changer grand-chose, qui réimagine pas le jeu, mais en même temps, c'est l'un des plus grands jeux de, de ces 10 dernières années, peut-être même plus, selon certains. Vika et moi, on aime beaucoup la série, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, je vais te laisser en parler, Florian, tu le feras mieux que moi, vu que tu y as joué. The Last of Us Part 1, qu'en as-tu pensé ?
Oui, c'était un jeu effectivement qui c'était très difficile au moment de se lancer tout simplement dans le jeu. Voilà, comment réussir à libérer son esprit en fait de toute la controverse qu'il y avait pu y avoir, parce que oui, The Last of Us reste aujourd'hui, je pense pour la majorité des gens qui y ont joué, un grand jeu. Moi, je fais partie de cette majorité. C'est un jeu que j'avais absolument adoré à l'époque, que j'ai refait en 2020, juste avant la sortie de la suite, justement. Et en 2020, j'ai trouvé qu'il fonctionnait comme au premier jour. Et du coup, la grande question, c'était ben, un tel jeu, pourquoi en faire un remake en 2022, seulement, entre guillemets, 9 ans après sa sortie? Est-ce qu'il allait vraiment pouvoir avoir des choses nouvelles à dire? Tout ça, c'est plein de questions bah, moi, qui me trottaient dans la tête quand j'ai lancé le jeu, quand j'ai reçu la version review, et que voilà, il a fallu vraiment se lancer dedans. Et c'est des questions qui ont en fait complètement disparu de ma tête, je pense,
j'ajoute,
en 2 minutes.
Excuse-moi, j'ajoute un élément à ces questions, c'est le prix, parce que tu dis pourquoi, c'est
oui,
parce
évidemment,
que l'argent,
évidemment.
Et il coûte 80 euros. Encore, il aurait été à 40.
Voilà, et ça, c'est effectivement, tout aurait été tellement plus simple s'il avait été mis à un prix un peu plus raisonnable. Mais là, non, c'est un jeu qui est lancé voilà, au prix d'un triple A actuel. Mais encore une fois, comme je te dis, quoi, moi, ce qui m'est arrivé vraiment, c'est qu'il y a un moment, j'ai lancé le jeu, et oui, en quelques minutes, même pas, bah, toutes ces questions, elles ont disparu de ma tête. J'étais juste complètement à nouveau immergé dans cette aventure. Voilà, cette fameuse introduction, on va pas en révéler la teneur hein, pour ceux qui n'auraient pas joué au jeu d'origine, mais qui est devenu absolument mythique et qui, en seulement 15 minutes, envoie des coups de poing absolument monumentaux sur l'esprit du joueur. Et oui, c'est encore une fois un jeu qui fonctionne comme au premier jour, mais ce remake arrive vraiment, en fait, tout en étant extrêmement fidèle au jeu d'origine. C'est un truc qu'il faut dire à son sujet, c'est vraiment le même jeu. Il y a deux, trois petites choses qui ont évolué dans le gameplay. Il y a évidemment des grosses améliorations graphiques dans l'animation, tout ça. Par contre, en termes de structure, c'est strictement le même jeu. Mais ouais, ce que ce remake arrive à faire, c'est que il arrive malgré tout à le sublimer, non seulement parce que ces améliorations techniques sont présentes et elles sont très impressionnantes, hein, le pedigree du studio Naughty Dog, on le connaît, il est parfaitement fidèle à cette réputation ici, mais en plus, vraiment, ces améliorations se concentrent sur des aspects du jeu qui sont exactement vraiment les aspects du jeu qui pouvaient, j'allais dire transcender l'expérience, je sais, transcender peut-être un mot un peu excessif, mais en tout cas l'élever à un niveau encore largement supérieur à ce qu'on avait connu sur PS3 et même sur PS4, parce que oui, une autre partie de la controverse, c'est le fait que le jeu aujourd'hui existe en version PS4, la fameuse version remastered qui était sortie à l'origine en 2014, qui aujourd'hui fonctionne encore très bien en rétrocompatibilité sur PS5. Donc voilà, qui pouvait être finalement la concurrente fratricide, on va dire, de l'édition PS5. Mais c'est quelque chose, c'est un sentiment qui saute très très vite quand on se lance dans l'édition PS5, parce qu'elle est tellement plus immersive, tellement plus crédible d'un point de vue visuel, que oui, l'expérience de jeu en est vraiment élevée à un niveau largement supérieur.
C'est ce qui ressort de ta... Moi en lisant ton test, j'ai eu l'impression que ils ont mis à jour, le jeu était, alors qu'on l'aime ou pas, je pense qu'il avait quand même des qualités indéniables, et le truc qui vieillit, bah, c'est forcément les graphismes. Notons que, comme tu le disais, le remaster, c'est juste une mise à jour résolution et fréquence d'affichage, il n'y a pas de travail graphique.
C'est ça, oui.
Et là,
le remaster sur PS4 d'époque, effectivement, c'était vraiment ça. Un portage du jeu PS3.
Exactement. Et là, ce qu'ils améliorent, c'est, allez, à 90% simplement les graphismes, c'est-à-dire les modèles, les textures, l'éclairage et ces choses-là. Et du coup, j'ai l'impression, moi, que c'est une sorte de mise à jour au standard actuel, en fait, de ceux qui n'étaient pas au standard actuel dans le jeu d'origine. Parce que au niveau de la narration, bon, le gameplay reste simple mais efficace, on va dire. Au niveau de la narration, ça, on était très très loin au-dessus de ce qui se faisait à l'époque. Et ça reste quand même très fort aujourd'hui. Et donc, ceux qui pouvaient souffrir de l'âge, c'était les graphismes. Et c'est ça qu'ils ont voulu améliorer avec, avec le remake, ou, enfin, je ne sais même pas comment on l'appelle, oui, le remake. et ça fonctionne. Et du coup, ça amène un petit peu le jeu au niveau des standards actuels, à peu de choses près, peut-être pas autant que le Part 2, mais quand même de manière significative. Et du coup, c'est presque un remake qui est fait pour que ça soit un jeu qui est découvrable aujourd'hui pour les gens qui l'ont jamais fait peut-être, avec la série HBO qui arrive, et qui soit pas, qui souffre pas de son âge, j'ai l'impression. Et du coup, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils le mettent à 80€. Pour eux, c'est un jeu moderne maintenant, avec ce remake, qui est aussi bien qu'un jeu qui sortirait aujourd'hui, quoi.
Oui, oui, c'est clairement la logique de Sony derrière cette sortie. C'est que là, du coup, bah, en fait, le jeu se retrouve à un état technique sur qui est extrêmement cohérent, on va dire, et qui est très unifié, hein, avec la Part 2, donc, qui était sortie en 2020 sur PS4. Donc voilà, maintenant, les deux épisodes forment vraiment un tout qui, visuellement, artistiquement, est très cohérent. Effectivement, le jeu arrive à quelques mois du lancement de la série qui elle-même va inévitablement relancer beaucoup de bruit, on va dire, autour de la licence, à la manière de ce qu'avait pu faire, par exemple, la série Witcher il y a quelques années pour The Witcher 3. Et ce remake du jeu sur PS5, il va être là pour accueillir toute une nouvelle vague de joueurs qui vont pouvoir le découvrir dans ces nouvelles conditions. Après, voilà, le jeu va quand même, à mon sens, plus loin que ça, parce que, encore une fois, quand on rejoue, en fait, aujourd'hui au remaster, alors oui, évidemment que le jeu a vieilli, parce que ça reste des graphismes qui ont donc leur fondation technique, on va dire, sur une console qui a déjà deux générations d'âge maintenant. Ceci dit, c'était un des plus beaux jeux de la génération PS3, et c'est un jeu qui reste aujourd'hui tout à fait regardable. Donc voilà, une question, et aussi évidemment que beaucoup de monde ont posé, c'est: est-ce qu'il était bien nécessaire de refaire The Last of Us aujourd'hui en version PS5? La réponse à cette question, c'est non, évidemment que c'est non. Sauf que, écoutez, maintenant, ce remake, il existe. Et encore une fois, ce qu'ils ont réussi à faire, vraiment, c'est améliorer exactement ce qui pouvait être amélioré pour que, voilà, ce soit pas juste une mise à jour cosmétique, mais vraiment un jeu dans lequel même quelqu'un qui a déjà joué plusieurs fois à la version PS3 ou PS4, oui, il va trouver une nouvelle dimension vraiment dans ce remake. Avec notamment, voilà, je crois qu'il faut en parler, les expressions faciales, qui sont un élément extrêmement important de la narration et qui sont vraiment la grande expertise de Naughty Dog, en particulier depuis Uncharted 4. Ils ont un nouveau système ils ont leur propre système d'animation faciale qui est d'une précision, d'un réalisme, d'une crédibilité ahurissante, mais vraiment ahurissante. Et de revoir toutes les cinématiques du jeu avec ces nouvelles expressions faciales, ces expressions faciales qui sont même utilisées des fois dans des séquences de gameplay, où on voit les personnages avec lesquels on est en train d'évoluer, et même le personnage qu'on contrôle de Joel, on les voit exprimer leurs émotions sur leur visage. Ça ajoute vraiment une couche d'immersion au jeu qui est vraiment pas négligeable.
Bon, t'as l'air convaincu, et t'étais pas parti convaincu à la base, mais en y ayant joué, et d'ailleurs t'es pas le seul, hein, les impressions, les sentiments semblent assez unanimes chez les gens qui ont testé le jeu. Tout le monde dit, bah, moi, j'étais pas parti convaincu, et pourtant, bah oui, ça fonctionne, et on comprend pourquoi ils l'ont fait. Mais cette question qui reste... la question reste posée. Il y a dans la chatroom, par exemple, on nous dit, en tant que PS Premium, le jeu PS4 est inclus, et du coup, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans la version remake? C'est une question impossible à répondre. Je veux dire, chacun aura sa réponse.
Oui, ça dépend des finances de chacun, ça dépend de beaucoup de choses. Moi, honnêtement, je pense, moi, après avoir joué au jeu, la conviction que j'ai, c'est que quelqu'un qui n'a jamais joué à l'original, qui a la chance aujourd'hui de pouvoir découvrir le jeu dans ces conditions, Même si vous êtes abonné PlayStation Plus Premium, et alors il faut rappeler en plus que pour avoir accès au remaster sur le PlayStation Plus, il faut bien être PlayStation Plus Premium et pas Extra, parce que même si le remaster est un jeu PS4, comme le jeu d'origine est un jeu PS3, c'est considéré comme un jeu rétro, et du coup il n'est que dans la formule Premium. Voilà, ça c'est la clarté infinie de l'offre PlayStation Plus, de la nouvelle offre PlayStation Plus, c'est toujours un grand plaisir.
Même si c'est la version PS4 que j'imagine on peut télécharger.
Exactement. Exactement. Ouais. Mais il n'empêche qu'il n'est que dans la formule premium. Enfin, pour revenir du coup à ce que je voulais dire, je pense que si on a l'opportunité aujourd'hui de vraiment découvrir le jeu dans ces conditions, pour moi, c'est pas un jeu effectivement qui vaut moins que les AAA d'aujourd'hui en fait. Mmh. 80 ça, euros, voilà. Je ne veux pas dire 80 euros parce que 80 euros, c'est ça, 80 euros pour n'importe quel AAA, est-ce que c'est vraiment un prix raisonnable ? Rien que ça, c'est une question qui mérite d'être posée. N'empêche qu'aujourd'hui, voilà, c'est le prix que les AAA coûtent. Et The Last of Us Part 1, même si c'est un jeu qui, dans sa structure, est vieux de 9 ans, bah, c'est un jeu qui tient parfaitement la route aujourd'hui. Même le gameplay, voilà, même si, comme tu l'as dit, on est sur quelque chose de très efficace, à défaut d'être brillant, c'est un jeu qui est relativement académique, un cover shooter avec un peu de survival. C'est une formule qui est très connue et qui marche très très bien dans ce jeu-là, mais voilà, qui n'a rien de particulièrement innovant à dire. N'empêche que c'est un jeu qui, s'il sortait aujourd'hui sans être un remake, sans être la réinterprétation d'un jeu vieux de 9 ans, eh ben, il serait parfaitement à son aise au milieu de tous les gros blockbusters qui sortent aujourd'hui. Mmh. Et à ce titre-là, pour moi, oui, c'est totalement pertinent de mettre le prix d'un triple A dans ce jeu-là pour le découvrir dans ces conditions qui sont quand même extraordinairement confortables et convaincantes.
Moi, j'ai juste une question pratique. Est-ce que les features de la DualSense se sont utilisées dans ce remake ?
Oui, alors la DualSense est utilisée, j'ai envie de dire, un peu comme dans tout bon jeu PS5 qui se respecte, ouais. En particulier venant des studios first party de Sony.
C'est sûr.
Donc oui, c'est utilisé plutôt bien pour restituer les vibrations d'un véhicule, pour restituer le feeling des armes, ce genre de choses. Voilà, c'est pas quelque chose d'indispensable non plus. On n'est pas sur l'implémentation la plus spectaculaire qu'il y ait jamais eu de la DualSense. Cela dit, le gain en immersion est déjà là. Et surtout, un truc voilà, qui, à mon avis, mérite d'être mentionné à chaque fois qu'on parle du jeu, c'est l'accessibilité. Voilà, l'accessibilité. Naughty Dog est vraiment devenu un studio absolument champion de l'accessibilité. Il y a un menu accessibilité dans le jeu qui est d'une générosité incroyable. On peut modifier plein de choses. Il y a des aides visuelles, sonores, on peut modifier le comportement des ennemis, on peut ralentir le déroulement du jeu. Enfin, c'est vraiment d'un foisonnement extraordinaire. Et il y a une idée qui est absolument brillante qu'ils ont eue, c'est de proposer une option avec laquelle les dialogues du jeu, donc toutes les voix, tous les dialogues prononcés par les personnages, en fait, sont restitués en vibration dans la manette. Et l'intérêt de faire ça, en fait, c'est que les personnes malentendantes, eh ben maintenant, elles n'ont plus seulement les sous-titres pour comprendre ce que les personnages disent. Elles peuvent aussi ressentir, avec la manette, le rythme de la voix, l'intonation, l'intensité de la voix. Et je peux pas l'affirmer parce que moi-même, j'ai la chance de bien entendre, mais je pense que ça peut ajouter une connexion émotionnelle avec les personnages absolument extraordinaire pour les personnes concernées.
Écoute, ça donne très envie, c'est sûr, mais je crois que c'est un jeu pour lequel chacun devra se faire son avis. Le truc que je retiendrai, c'est ce que tu disais à la fin, c'est un jeu qui n'aurait pas à pâlir face au AAA d'aujourd'hui, donc bon, en ça, je pense qu'il justifie son existence. Sachant que la raison principale, comme on le disait au début, c'est que Sony aime bien l'argent. Donc voilà, il n'y a pas d'illusion là-dessus. Ils peuvent se le permettre et c'est pour ça qu'il est à ce prix max, quoi. Il n'y a pas de... Et
oui, puis,
comme je le dis toujours, il est très facile de baisser le prix d'un produit, très difficile de le monter, même si Sony s'autorise même ce genre de choses.
Et pas que donc, Sony, il y a d'autres entreprises qui s'y sont risquées ces derniers temps, mais bon... Ouais.
Super, bah écoute, merci beaucoup Florian, c'était extrêmement
merci à toi.
Je ne sais plus si on l'a dit, tu lui as mis 8 du coup sur Gamekult, donc vraiment une bonne
tout
note.
Tout à fait, oui.
Et les notes sont dans ces eaux-là, entre 8 et 9 on va dire, ce qui était bon, pas gagné. Merci, on te laisse filer, est-ce que tu peux nous dire avant de nous quitter où on peut te retrouver du coup sur internet
Oui, tout à fait. Bah, écoutez, vous pouvez me retrouver donc, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, sur les numériques où j'officie en tant que chef de rubrique jeux vidéo, et puis donc voilà sur Gamekult aussi parce que numérique et Gamekult, on fait partie de la même société, on est vraiment des sites frères, on va dire. Et du coup, voilà, il m'arrive assez régulièrement aussi de participer au contenu de nos chers camarades de Gamekult. Et voilà, globalement, c'est déjà pas mal, en fait.
c'est même excellent. On mettra le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission. Comme ça, les gens pourront te retrouver. Un grand merci à toi. Je suis désolé que ces retrouvailles entre JK et Florian aient été si courtes.
On s'est vu il n'y a pas longtemps à la Gamescom, d'accord. Donc bon, alors, ça va, on a le temps de se faire des papouilles.
Je me sens pas coupable. Super, merci Florian. À la prochaine, merci beaucoup d'être venu.
Allez, ciao.
Ciao. Bah, du coup, on va encore rester silencieux un tout petit instant avec Julie. Parce que j'aimerais, puisqu'on est parti sur les jeux auxquels on est en train de jouer, tu mentionnais que tu as un petit peu joué à l'autre jeu qui a fait pas mal de bruit ces derniers jours, et qui est peut-être même encore mieux noté que The Last of Us Part 1. C'est Immortality qui fait un gros splash dans le monde du jeu vidéo.
Bah ouais, en fait, alors je t'avoue que c'est pas facile d'en parler aussi comme The Last of Us, mais pour plein d'autres raisons, parce que déjà on n'a pas envie de dire ce qui s'y passe. Après, moi je précise que je suis en train d'y jouer, donc le jeu est sorti hier, hein, donc moi j'ai pas eu de version en avance, donc j'ai commencé comme tout le monde hier et j'ai vraiment essayé d'y jouer un maximum parce que c'est un jeu que j'attendais énormément. Je fais une rapide remise dans le contexte, pardon. Donc c'est le nouveau jeu développé par Alf Marmaid, qui est un studio dirigé par Sam Barlow. Sam Barlow, c'est un créateur de jeux qui est vraiment spécialisé aujourd'hui dans les jeux en full motion vidéo, donc avec des acteurs filmés, avec des scènes, voilà, c'est pas de l'image de synthèse ou de la 3D. Il avait fait évidemment Her Story, que vous connaissez peut-être, qui est le jeu vraiment qui l'a révélé, qui est vraiment un premier pas vers le concept qui va amener à Immortality, et il avait fait Telling Lies quelques temps après. Donc là, c'est son troisième jeu. Et c'est vraiment une expérience qui est particulière, et je pense que c'est à la fois son jeu le plus abouti et le plus ambitieux, clairement, et c'est aussi peut-être son jeu le plus difficile d'accès, je pense, pour les profanes, parce qu'en fait c'est un jeu qui parle beaucoup de cinéma, qui parle quasiment que de ça en fait, et qui suit en fait le destin d'une actrice, donc qui est censée avoir existé, bien sûr. Il nous raconte que c'est une actrice qui a existé et qui a disparu depuis, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, à trois temporalités différentes, et à chaque fois en fait on visionne des dizaines d'extraits à la fois de ses films et de making of, de scènes volées de sa vie, etc. Et en fait en visualisant ces scènes là on reconstruit tout un puzzle.
C'est pas juste des scènes des films qui n'ont pas été diffusées, il y a pas que ça.
Il y a des scènes de films, mais il y a aussi des scènes de sa vie de tous les jours, de making of, de sa relation avec les autres, etc. Et c'est une actrice donc qui s'appelle Marissa Marcel, c'est le personnage principal vraiment qu'on suit à travers ces extraits. Et en fait, l'idée assez dingue en fait de gameplay, en tout cas d'Immortality, c'est que pour progresser dans ce visionnage et trouver les bons extraits, parce qu'en fait au tout début on a un seul extrait, et après on crée une sorte de canevas comme ça qui permet de débloquer deux extraits. Et comment on débloque deux extraits, c'est qu'à tout moment pendant le visionnage d'une séquence, on peut faire pause, revenir en arrière, revenir en avant, etc. et surtout pointer n'importe quoi dans l'image, un personnage ou un objet, appuyer sur un bouton, et en fait on va avoir un zoom et qui va nous emmener vers une autre séquence en rapport avec ce qu'on vient de pointer. Et c'est une idée qui fonctionne très très bien. Par exemple, si on voit Marissa qui parle avec le réalisateur du film qu'elle est en train de tourner, on fait pause, on appuie sur le visage du réalisateur, et là on va avoir un autre extrait qui implique ce réalisateur. Et en fait, toute cette mécanique, c'est quasiment la seule mécanique qu'on a dans le jeu. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est un jeu qui est, on est vraiment plus une sorte d'expérience interactive. Hein. On parle de film interactif. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que le jeu va sortir sur Netflix dans pas longtemps. Si vous êtes abonné à Netflix, vous allez pouvoir y accéder. Alors, je sais pas comment ils vont adapter l'interface, parce que là, tu peux y jouer à la manette ou à la souris, mais il y a quand même quelques commandes à savoir. Et voilà, c'est à peu près tout.
Tu mentionnes Netflix, il sera inclus dans l'abonnement de Netflix dans le cadre de l'initiative de jeu, et il est déjà dans le Game Pass. Donc on va vraiment avoir beaucoup de moyens d'y jouer.
Ce qui est super, c'est que je disais qu'il n'était pas forcément évident d'accès, et je ne pense pas que ce soit un jeu forcément pour tout le monde, mais c'est un jeu à essayer absolument, parce que c'est quelque chose d'unique en son genre. Et effectivement, le fait qu'il soit dans le Game Pass, bah, ça va aider probablement pas mal de gens à se dire, bon, est-ce que je tente, est-ce que ça va me plaire, sachant que je rappelle que si vous le prenez sur Steam, par exemple, Steam vous permet de rembourser un jeu très facilement. On rappelle que vous avez 2 heures jusqu'à 2 heures de jeu, je crois, avant de vous faire rembourser si jamais vous accrochez pas. Et je peux comprendre qu'on n'accroche pas, mais par contre, si on accroche et si on aime un tant soit peu le cinéma, et parce que ce qui est intéressant, c'est que il y a des vrais moyens de cinéma derrière. C'est souvent les trucs en FMV, c'est un peu cheap, c'est un peu low budget, etc. Et bah pas là. Déjà, les acteurs sont formidables. L'actrice principale, je t'avoue, je sais pas comment s'appelle l'actrice dans la vraie vie, mais donc qui joue Marissa Marcel, elle est incroyable. Et en fait, comme on visionne plusieurs films à plusieurs époques différentes, il y a vraiment le grain de l'époque. Par exemple, il y a un film au milieu qui est un film des années 70. On a vraiment ce grain des années 70, ce style. Enfin, il y a la reproduction de l'époque est vraiment extra. Et voilà. Et après, c'est un jeu qui est bourré de surprises, qui, comment dire, régulièrement te change ta vision des choses par des extraits que tu peux voir et des choses comme ça. Et moi encore une fois, j'y ai joué, mais je l'ai pas terminé. Donc, je sais que je vais être assez surpris, comme pouvait l'être Horror Story et Telling Lies à leur époque. Et voilà. Et je peux pas malheureusement en dire beaucoup plus. Je sais pas si ça suffit à donner aux gens envie de l'essayer.
En fait, la question que j'aurais en plus, c'est est-ce que c'est intéressant dès le début ou est-ce que c'est le genre de jeu où bon, c'est juste on explore l'histoire, on comprend et au bout de 4 heures, tu finis par dire ah ouais, ok, donc c'était ça. Et...
Alors, ce qui est très malin, c'est que dès le début, la première séquence que tu visualises, c'est un extrait d'un show télé à un talk show de la fin des années 60 où cette actrice est invitée. C'est vraiment à l'époque une jeune première, une jeune découverte, et on raconte on la découvre en tant que nouvelle égérie du cinéma. Elle vient de tourner son premier film, etc. Et le deuxième extrait qu'on peut visionner très rapidement, c'est la même émission des 5-6 ans plus tard, où il y a un réalisateur qui parle d'un drame qui s'est produit sur le tournage d'un film dans lequel elle était, et que depuis elle s'est complètement retirée du cinéma, personne n'a de ses nouvelles, etc. Mmh. Donc déjà de base, ça te pose un contexte de thriller, de choses, qu'est-ce qui s'est passé. Et entre temps, tu visualises plein de choses. Après, il y a vraiment plein de moments où tu vas visualiser des scènes qui t'as l'impression qu'ils vont rien apporter à l'intrigue principale. Par contre, ça te donne de la profondeur au personnage, ça donne de la profondeur à l'univers. Et aussi, c'est bête, mais t'as vraiment l'impression de regarder 3 films en parallèle que tu vas reconstituer, qui sont trois films complètement différents. T'as un truc en costume qui se passe au Moyen-Âge, t'as un film des années 70, un thriller, et t'as un film dans les années 90 qui va plus parler de célébrité et de choses comme ça. Et voilà, donc t'as un foisonnement d'univers, d'idées, d'idées visuelles et de choses comme ça qui est vraiment génial, avec cette feature de gameplay que moi je trouve assez cool, de pouvoir pointer dans l'image pour naviguer d'extrait en extrait, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une curiosité que je trouve assez passionnante. C'est un jeu effectivement qui a très bonne presse, hein. Chez nous, je crois qu'il a eu 17. Chez JV, c'est Yann François qui lui a mis 9 sur 10, parce qu'en plus, lui, c'est un gros fan de ce genre d'exercice, donc il a adoré. Et moi, alors, en fait, j'ai qu'une envie, c'est qu'une fois que l'émission s'arrête, c'est d'y retourner, parce que c'est vrai. Alors je vous adore, je vais faire l'émission, vous inquiétez pas, mais vraiment, tu sais, j'ai commencé à jouer hier, c'est le genre de jeu en fait qui va un peu t'obséder, parce que t'as envie de continuer, t'as envie de savoir ce qui va se passer, t'as envie d'en savoir plus. Voilà, après je préviens, c'est particulier, c'est très basique en termes de gameplay, c'est avant tout du visionnage d'extraits vidéo. Mais si on accroche, je pense que ça peut vraiment être une expérience très très marquante.
Écoute, ça sera peut-être le premier jeu de San Barlow que je vais faire. En plus, inclus dans le Game Pass, il n'y a pas de raison de se priver. On nous demande dans la chatroom s'il y a un doublage français ou s'il faut lire les sous-titres.
Non, c'est anglais sous-titré français. D'accord. Donc, c'est pas gênant. Enfin, parce que l'acting est très bon et le sous-titrage fonctionne bien. Donc, il n'y a pas de souci particulier, quoi.
D'accord. Et d'après les premiers retours, il dure 7-8 heures, quelque chose comme ça, donc c'est pas un jeu qui est... Ouais,
ce qui est plutôt long par rapport à... Parce que Horror Story, je me souviens, c'est un jeu qui pouvait se finir en 2 heures. Mmh. Et après, en fait, comme on est complètement libre, d'ailleurs c'est marrant, c'est ce que disait Yann François dans son test sur GK, il disait que, en fait, comme on est complètement libre de ses visionnages, à un moment donné, sans le vouloir, il est tombé sur le générique de fin du jeu, mais sans avoir tout, donc il revient en arrière, enfin tu vois, c'est un truc complètement non linéaire, qui est un truc un peu comme ça, un peu fou, et qu'il faut reconstituer, c'est un puzzle qu'il faut reconstituer, quoi.
Ça a l'air d'être le meilleur jeu de Sam Barlow, comment dire, le achievement, le crown jewel de ce style. Est-ce qu'il continuera dans ce style après? Mais oui, les trois,
Her Story, Tellingers
et Immortality sont vraiment trois. Et il a de l'expérience en plus, donc c'est un pedigree prouvé. Et... Bref, inclus dans le Game Pass, on ne va pas se priver. Je vais peut-être y jeter un coup
de... Inclus dans le Game Pass, dispo sur Netflix quand très bientôt, ils ont dit qu'ils avaient un peu d'adaptation à faire, mais il va sortir très bientôt sur Netflix. Et je pense que c'est un jeu qui peut être très très cool à faire, justement, sur le canapé, avec ton conjoint, tu vois, où tu discutes un peu, etc. Ça peut être une expérience sociale assez chouette aussi, quoi.
Super, merci beaucoup Jika. Ça t'a donné envie, Julie, lequel, si tu dois choisir, Immortality ou The Last of Us Part 1, tu fais lequel?
Immortality à fond, enfin, je ne connaissais pas, j'en avais pas entendu parler encore, et là, ce que tu m'as dit, ça m'a vraiment trop donné envie d'essayer, donc je pense que, comme tu as dit, je vais en parler à mon conjoint et voir si on peut se poser dans le canapé et le faire. Pour The Last of Us, en fait, moi, le souci que j'ai, c'est que je ne doute pas une seule seconde que ce soit très bien fait, mais il faudrait que j'ai un petit lavage de cerveau et que j'oublie totalement l'histoire et que je puisse la redécouvrir, sinon ça ne m'intéresse pas vraiment, surtout au prix... à 80 euros, j'ai envie de redécouvrir quelque chose vraiment de A à Z. Et le jeu, je l'adore. Et vraiment, c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué. Mais ce qui m'a fait autant kiffer le jeu, c'est l'histoire qu'il y avait derrière. Et donc, si je redécouvre pas cette histoire, pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt, quoi.
Moi, je l'ai déjà fait deux fois, le jeu, et je crois que j'ai fait deux ou trois fois le DLC en plus, qui est inclus. D'ailleurs, on ne l'a pas mentionné, mais le DLC est inclus. Comment ça? Oui, tu ne savais pas qu'il y avait un DLC dans
c'est plus le faire plusieurs fois.
Ah oui,
quelque chose que j'ai du mal à comprendre.
Je comprends. c'était, comment dire, l'ambiance du truc qui était tellement incroyable que j'ai pas voulu quitter le monde, en fait. Et je l'ai fait, en fait, à sa sortie, et je l'ai refait au moment du remaster. Et du coup, maintenant, est-ce que je vais le refaire pour le remake? Je sais pas. La grosse différence, c'est qu'on a à peu près 14 fois plus de jeux, et moi, j'ai 14 fois moins de temps à consacrer au jeu. Donc, je me dis, le refaire encore une fois, ou aller essayer Immortality, peut-être qu'il y en a un qui est plus judicieux que l'autre. Encore que j'ai 12 000 jeux dans mon backlog et je suis en train de jouer à Destiny 2, moi. Donc, je ne sais pas si j'y suis forcément.
Tu es vraiment une course perdue, Patrick. Hein, c'est pas possible.
Après, c'est pour ça qu'on a besoin de plus de jeux qui sont courts. Par exemple, je pense à Stray, notamment, qui est un jeu finalement qui est très court à faire. Je trouve que ça fait du bien parce qu'on a tellement de jeux qui sont si longs tout le temps à faire. Enfin, on n'est pas à plaindre non plus, quoi. Mais...
Disons qu'avec des jeux comme Destiny ou au hasard, League of Legends, on n'est pas dans les... on n'aide pas, quoi.
L'investissement n'est pas le même.
Non, c'est sûr. Écoutez, on verra. Peut-être pour conclure cette petite partie sur les jeux auxquels on joue en ce moment, Julie, est-ce qu'il y a des choses que tu fais? Tu mentionnais Stray, on en a déjà parlé. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu joues en ce moment qui valent la peine d'être mentionnées?
Oui, alors je joue beaucoup à deux jeux en ce moment. Là, depuis très très récemment, c'est Two Point Campus. J'aime trop cette série de jeux. Enfin, vraiment, j'accroche, je trouve ça hyper addictif et en plus plein d'humour. Celui-ci innove pas plus que le Two Point Hospital, pour être tout à fait honnête, mais il est très très bien aussi à jouer. Et le deuxième, c'est Cult of the Lamb, que je joue sur Switch. Qui je trouve est incroyable comme jeu. Je m'attendais à rien en le prenant. Je l'ai pris parce que je partais en vacances et que j'avais pas mon PC et que la seule console que je peux transporter, c'est ma petite Switch qui me suit partout. Et en fait, j'ai totalement accroché, même en rentrant de vacances, j'ai pas arrêté.
T'as pas arrêté, ouais. On a parlé des deux. On a parlé de Two Point Campus la semaine dernière avec Kassim qui aime beaucoup cette série et qui a tenu à parler de Two Point Campus. La question que j'aurais sur Two Point Campus, c'est est-ce qu'il est accessible aux gens qui sont pas fans du genre ou est-ce que c'est le genre de jeu qui va passer un petit peu inaperçu face à tous les trucs qui... On parlait de Cult of the Lamb qui a pris d'assaut les internets il y a genre deux semaines. Et maintenant, il y a Immortality dont tout le monde est en train de parler. Il y a The Last of Us. Enfin, il y a des trucs qui arrivent en septembre. Mais oui, Two Point Campus, à quel point c'est accessible? J'ai peut-être posé la question à Kassim la semaine dernière aussi, d'ailleurs. Mais...
Moi, je le trouve très facile d'accès. Le tutoriel est bien fait. Et comme ça fonctionne par niveau, en fait, en gros, on remplit un niveau, on a 3 étoiles, on passe à un niveau un peu plus difficile, etc. Finalement, on peut comprendre vite comment ça fonctionne et comment optimiser, parce que on recommence une partie à chaque fois qu'on monte d'un niveau. Donc, je dirais que c'est pas le plus compliqué des jeux de gestion. Après, ça reste un jeu de gestion, quoi, donc il faut quand même aimer le genre.
Mais on a des objectifs clairs, des niveaux, parce que moi, ce qui me frustre un peu dans les jeux de gestion souvent, c'est que même avec les tutoriels et même avec le début, c'est genre, ok, on te montre, alors clique ici, clique ici, clique ici, clique là, et après c'est genre, vas-y, démerde-toi, et t'as une interface infernale, genre, à laquelle tu comprends rien, et on dit, vas-y, maintenant tu fais tes armées, tu fais tes trucs, tu gères ton parc d'attractions, tu gères ton truc, et c'est un peu compliqué. Là, c'est moins le cas, ça a l'air...
Ah oui, non, là, c'est beaucoup plus guidé, en fait, t'as une carte sur laquelle il y a plusieurs campus qui vont s'ouvrir au fur et à mesure. En fait, à chaque fois que t'obtiens une étoile sur un campus, ça va en ouvrir un autre derrière, et le but, c'est d'avoir 3 étoiles, et c'est un peu comme les maps à la Candy Crush, où t'avances sur la map. Et du coup, à chaque fois que tu as fini un campus, tu as des objectifs clairs pour atteindre les 3 étoiles, et tu en recommences un qui est un peu plus difficile avec d'autres objectifs clairs, etc. Donc, c'est quand même très guidé, quoi.
Ça a l'air peut-être d'être un truc... C'est exactement le genre de jeu dans lequel je me serais un petit peu plus investi si j'avais pas 12 000 autres jeux à faire. Et d'ailleurs, j'ai aussi lancé Cult of the Lamb il y a quelques semaines. Très, très sympa. Moi, j'ai pas accroché au mélange des genres, parce que je ne suis pas très jeu de gestion, justement. Mais oui, tout le monde en parle. Toi, tu as continué, pas juste pendant les vacances, tu disais. Tu es encore dessus à fond. Et pour toi, le mélange
fonctionne bien, quoi. Moi, je suis moins roguelike. Moi, je ne suis pas roguelike. Je ne joue pas au roguelike d'habitude. Donc, j'y ai joué plus à la base pour le côté gestion. Mais en fait, le côté donjon est tout aussi bien. Donc, le mélange des genres, en soi, m'a pas dérangé, au contraire, je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de rester sur le jeu et de pas me lasser. Quand j'en ai marre de faire de la gestion, vas-y, je pars faire un donjon. J'en ai marre de faire des donjons, je vais rester un peu sur la gestion. Et je switch un peu entre les deux, quoi.
Écoute, il y a de quoi s'amuser si vous avez pas à quoi jouer. Je crois que là, il n'y a pas d'excuse, quoi, hein, vraiment. Il y a de quoi faire. Et pour ma part, donc, comme je le disais, je joue à Destiny 2. Et à chaque fois, je me sens coupable de parler de Destiny 2, parce que c'est un jeu service, donc les jeux service, ça parle aux gens qui sont super fans de ces jeux-là et pas tellement aux autres. Mais il m'a encore réattrapé. Alors, je sais pas pour combien de temps. Peut-être, je pense que je vais y jouer, 2-3 semaines, et puis après, ça sera terminé, comme à chaque fois que je recommence une saison. Mais c'est en fait, vraiment, il faut, je sais pas, peut-être 2 jours, 3 jours pour... recomprendre comment fonctionne le jeu. À chaque fois, ça change un petit peu. Et une fois que tu comprends, tu sais ce que tu as à faire. Et il y a un mélange entre le gameplay super fun d'un côté, qui est toujours très fun, hein, Destiny, c'est une formule qui fonctionne. Les 30 seconds of fun sont assez imbattables dans le style shooter. Ils savent ce qu'ils font. Et d'un autre côté, l'aspect hyper satisfaisant, peut-être pour des gens comme moi et pas forcément pour les autres, l'aspect hyper satisfaisant de... Ça, c'est des to-do list à cocher. Tu as des to-do list sur des to-do list sur des to-do list, et tu coches, et quand tu utilises telle arme pour tuer tel type d'ennemi avec tel type de spec de build, ça te fait cocher genre 3 quêtes/bounty/ autre truc à faire. Et là, t'es... Oh, mais j'ai accompli quelque chose dans ma vie aujourd'hui, c'est fou. En plus, tu as des petits chiffres qui montent avec ton niveau de puissance qui monte régulièrement. Ça fonctionne, quoi. Pour moi, je suis complètement retombé dedans. Et à part ça, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, donc je vais vous épargner peut-être qu'un jour. Ce que j'aimerais faire un jour, c'est faire un explicatif de, non pas comment rentrer dans Destiny, mais comment fonctionne le endgame pour ceux qui veulent s'intéresser au jeu? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais l'histoire, on peut pas la faire, il n'y a pas ceci. » On s'en fout, l'histoire, c'est pas tellement important. Je comprends que c'est nécessaire pour se mettre le pied à l'étrier. Mais si on peut comprendre ce qui se passe au endgame, je pense qu'on peut s'amuser très vite, mais c'est tellement compliqué, il faut un guide, quoi. Donc peut-être qu'on fera ça. On me demande, tu n'es pas écœuré par toute la surcouche free-to-play ? Alors, ce n'est pas free-to-play, mais c'est microtransactions supplémentaires, parce que le jeu n'est pas gratuit et il n'y a pas grand-chose... Enfin, si, le jeu est gratuit, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas gratuites. À vrai dire, non, tu as raison, il y a beaucoup de choses gratuites et accessibles. C'est une question complexe avec Destiny, parce qu'il y a beaucoup de travail qui est fait sur le jeu, mais on paye les saisons, et le truc qui est... en gros, il y a les extensions chaque année, et il y a en plus des saisons qui sont des sortes de season pass qui durent 3 mois, 4 mois, quelque chose comme ça. Et chaque saison apporte vraiment de nouvelles activités, du nouveau contenu, des nouvelles armes, donc il faut payer l'extension... Donc, on a déjà payé. Et après, il y a un season pass par-dessus, mais qui rapporte beaucoup plus de... Enfin, qui rapporte vraiment du contenu. Écoute, je crois que la réponse est différente pour chacun. Moi, j'y prends tellement de plaisir et je trouve qu'il y a tellement de travail qui est fait derrière que ça ne me gêne pas plus que ça. Mais j'ai aussi peut-être tendance à être un peu pigeon sur ces trucs-là. Quand ça me plaît, je ne suis pas contre l'idée de payer. Mais je peux comprendre qu'on soit un petit peu frustré par ça. En fait, ils ont réussi à recréer une sorte d'abonnement sans avoir fait un vrai abonnement. Et donc, ce n'est pas pour tout le monde, quoi. Ça revient relativement cher si on veut payer. Après, on a, comme je disais, la partie free-to-play qui est substantielle quand même, mais qui n'a pas toutes les activités nouvelles et fun des saisons. Mais oui, c'est en gros, il faut savoir que si on veut profiter de tout, eh ben, il y a quand même une sorte d'abonnement un petit peu discret, quoi, à payer, parce qu'il faut payer pour tout, quoi. Et puis il y a des cosmétiques en plus, etc. Mais bon, il n'empêche, moi je suis toujours amoureux du jeu, quoi. Vous jouez pas à Destiny tous les deux, hein ? Non.
Pas du tout.
Pas du tout. Non, bah non, toujours pas. Mais non, mais après, je trouve ça. Enfin, je sais que ça fait partie de ces jeux services bah, qui sont de qualité. Ça me paraît évident. Maintenant, il n'y a plus vraiment grand chose à contester. Et je pense que typiquement, enfin, j'y ai joué un petit peu à sa sortie. J'avais commencé avec la campagne solo et tout, qui, je crois, n'est pas inoubliable. Par contre, je reconnais que le feeling au niveau du gunplay, au niveau de ce que tu disais, bah, de la boucle de gameplay, il est vraiment super super agréable, quoi. Mais bon, voilà, l'univers est pas suffisamment accrocheur pour moi pour que je m'y perde complètement, quoi.
Ce que je dirais, c'est que maintenant, la manière dont ils le font, c'est vraiment un... Comment dire ? C'est comme Diablo, en fait. Le jeu le plus proche de Destiny, c'est Diablo. T'as des builds particuliers, des objets spéciaux qui font... qui changent le gameplay. T'as un gameplay hyper efficace auquel tu t'habitues et dont tu comprends les mécaniques, et puis tu as des objets, des armes en l'occurrence, qui vont te changer des éléments de gameplay, des éléments de ton build, qui vont être super fun et jouissifs à utiliser en jeu. Il y a des défauts aussi, mais c'est le plus comparable au truc, c'est Diablo. Et quand tu parles à quelqu'un, si tu as vraiment joué à Diablo, et tu parles à quelqu'un qui a joué à Diablo et qui a fait que la campagne et qui dit « Ouais, bon, Diablo, c'est sympa, j'ai bien aimé, j'ai monté deux persos et c'était sympa. » Et tu sais que la personne s'est arrêtée après la campagne, tu sais que la personne n'a pas joué au jeu, quoi, en fait. Et là, c'est un petit peu la même chose. Si t'as pas, c'est un jeu de endgame, c'est pas un jeu de campagne.
Ça n'empêche pas que, enfin, tu vois, Diablo par exemple, la campagne en soi, elle est chouette. Enfin, tu vois, tu passes un très bon moment. La campagne solo Destiny 2, bon, c'est pas le truc le plus incroyable, quoi.
Non, et puis
le problème, c'est que il faut entre guillemets se la fader pour pouvoir après profiter du jeu. Donc c'est un petit peu dommage, quoi.
Alors plus ou moins maintenant avec les dernières extensions, ils ont un petit peu raccourci le truc et puis elle est un petit peu différente. D'accord. Je montrerai un perso un jour et puis je vous en parlerai pour comment avoir parce que moi il y a tellement de jeux dont je n'arrive pas dans lesquels j'arrive pas à rentrer et je passe à côté du fun du jeu et ça me frustre beaucoup. Je ferai un perso solo et je vous dirai exactement comment rentrer dans le jeu et comment avoir du fun. Et peut-être qu'on se fera une guilde sur le Discord et on jouera de temps en temps. Ça sera sympa avec des gens qui n'ont jamais joué. Ça pourrait être cool. Bon, écoutez, je crois qu'on va passer à la section news. Je suis complètement perdu. Julie, Jika, qu'est-ce que je fais ? D'habitude, on fait les news tout, en premier. Et là...
Je sais pas, t'as pas des gens à remercier, des patriotes à remercier, donc tu l'as déjà fait, ça.
Je retrouve mes balises. Très bien, merci Jika. Je voudrais remercier les patriotes et les patriotes, j'ai mis le masculin et le féminin, qui soutiennent l'émission, évidemment. Et si vous ne soutenez pas l'émission, eh ben écoutez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez continuer à ne pas soutenir l'émission. Je suis très heureux que vous l'écoutiez déjà. Ça me fait extrêmement plaisir. Mais si ça vous fait plaisir aussi d'écouter l'émission, eh ben peut-être que vous voudriez soutenir ce travail qui est assidu, je dirais. Ça a peut-être pas l'air, mais on travaille quand même pas mal pour vous monter des émissions intéressantes chaque semaine. Et on vous fait passer, j'espère, une petite heure, une heure et demie sympathique. Et du coup, si vous dites « Ah oh bah ouais !» Ça vaut bien un petit café, une petite bière ? Eh bien, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeux et soutenir l'émission. Vous décidez combien vous mettez dans la cagnotte par épisode. Et à la fin du mois, vous êtes facturé. C'est hyper simple, ça se fait en 2 minutes, même depuis votre téléphone portable. Vous pourriez maintenant être en train de le faire, là, depuis votre téléphone portable, patreon.com/rdvjeux. D'ailleurs, peut-être que vous êtes en train de le faire maintenant. Ça, c'est incroyable, quelle méta-narration. Et en plus de ça, si vous êtes en train de le faire, vous découvrirez que vous avez des bonus incroyables, encore meilleurs que ceux de Destiny. Les microtransactions du rendez-vous jeu sont de bien meilleure qualité que les jeux vidéo qui vous essorent. On a des émissions sans pub, les timecodes pour passer les passages qui vous intéressent moins, des contenus bonus comme des éditos, des petites choses comme ça. Tout ça... pour la somme que vous choisissez, c'est quand même fou, c'est quand même incroyable. Bon, il y a des petits bonus qui sont exclusifs aux gens qui soutiennent un petit peu plus, mais allez voir sur patreon.com/rdvjeux et voyez si vous voulez devenir un patriote, qu'on remerciera d'ailleurs au prochain épisode. Votre nom, your name here, vous pourriez être remercié, vous, toi, auditeur, toi, auditrice, tu pourrais être remercié le prochain épisode. Donc, patreon.com/rdvjeux. Et merci à tous ceux qui le considèrent et tous ceux et celles qui le sont déjà. Et d'ailleurs, pour les patriotes, je vous réserve un petit after show super débile. Et par débile, j'entends intéressant. On va essayer de déterminer si Elden Ring est garanti d'être le GOTY cette année ou pas. Et on va passer en revue les jeux qui pourraient lui faire de l'ombre. C'est dans l'after show pour les patriotes que j'aime.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bon, ben, il est temps qu'on parle de news. Il serait peut-être un peu temps, Patrick. Hop, les infos à retenir. Et du coup, on fait les deux en même temps parce que c'est en même temps le reste des infos. On va tout faire d'un coup. Les deux jingles en même temps. Les gens qui n'aimaient pas les jingles sont bien contents maintenant. L'épisode précédent, on parlait à Kassim qui était en direct de la Gamescom. Et là, on a notre correspondant qui est revenu, JK.
Oui, il y a des rôles.
Il s'est mis à parler allemand. Il a mangé des currywurst, il a mis des sandales avec des chaussettes, tout ça, il s'est transformé.
Alors, figure-toi que je n'ai absolument rien fait ces choses, je n'ai absolument pas mangé de nourriture allemande, sauf les petits déjeuners que j'aime bien en Allemagne. Les petits déjeuners allemands sont sympas. Il y a de la charcuterie, il y a des trucs, il y a du fromage. Voilà, c'est très agréable. Mais bref, on n'est pas là pour parler de gastronomie allemande parce que ce serait terrible.
Qui mérite à peine le titre de la qualification de gastronomie.
Non, j'espère que les Allemands ne nous écoutent pas, mais bon, bref. J'étais là effectivement à la Gamescom. C'était cool parce que il y a plein de choses qui ont fait que j'étais très très heureux de revenir d'aller à la Gamescom. Déjà, ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu de salon physique. Moi, à titre perso, ça faisait 4 ans que je n'y avais pas été. Donc, c'était vraiment un retour j'étais très content. Et c'est un salon que j'aime beaucoup. Je pense que c'est mon salon de jeux vidéo préféré, la Gamescom, parce que c'est le salon un peu du concret, dans le sens où tu vois beaucoup de jeux, il y a beaucoup de jeux jouables, il y a beaucoup de développeurs sur place, il y a vraiment toute l'industrie. Enfin, en plus, cette année, tu sentais que toute l'industrie du jeu vidéo, européenne en tout cas, et française en particulièrement, était super contente de se retrouver. Donc tu rencontres plein de gens, il y a vraiment une sorte, en tout cas cette année-là, encore plus que les autres années, il y avait un côté presque festif, en fait, où les gens étaient vraiment heureux de se retrouver. Notamment le soir, tu vois, tu vas boire des coups avec des gens. Enfin, c'est vraiment.
On a beaucoup discuté et spéculé sur les fêtes et les soirées de la Gamescom, en disant que nous, on était trop vieux pour aller dans les soirées des éditeurs et tout ça. Toi, par contre, tu fais la fête, hein, d'après ce que je comprends.
Non, mais pareil, la grande époque des soirées dans le jacuzzi, c'est fini, ça, bien sûr, non, je rigole. Il y avait une soirée qui était organisée. En fait, traditionnellement, traditionnellement, il y a toujours une soirée organisée, entre guillemets, pour les gens de l'industrie, organisée par Feu Corps Media, qui s'appelle Playon maintenant. Et cette année, ils le refaisaient. Donc, du coup, c'est un truc où il y a vraiment beaucoup de monde. Mais par contre, c'est super intéressant pour discuter avec des gens, mais vraiment de tous les horizons. Tu vois, j'ai parlé avec le scénariste de La Strange 2, j'ai parlé avec des gens de chez Focus, j'ai parlé avec plein de gens de l'industrie. C'était super chouette et super intéressant, surtout que en général, c'est en dehors du cadre d'une présentation, donc les gens sont beaucoup plus aptes à dire plein de choses, etc. Donc c'est super intéressant. C'est pas forcément de ça dont je voulais vous parler.
Ouais, je voudrais que tu nous parles des jeux que tu as retenus, mais avant je vais poser la question à Julie. Vous faites pas la Gamescom, vous, avec Riot, je crois. Vous faites pas trop les salons, c'est pas votre truc.
On fait aucun salon, ouais. C'est pas du tout notre truc. Souvent, les salons, déjà, c'est très console, et nous, on est vraiment PC. Et on aime bien un peu garder notre indépendance dans notre communication, les annonces qu'on fait, etc.
Mais du coup, toi, tu vas jamais à la Gamescom,
J'y suis allée. Ouais. Si, j'y vais souvent. Enfin, j'y vais souvent. Ça fait longtemps que je suis pas allée cette année. Mais la dernière fois que j'y étais allée, c'était plus pour aller rencontrer justement des personnes de l'industrie, des gens avec qui on pourrait collaborer, etc. Mais c'est vraiment d'une ambition B2B, business, quoi. C'est pas du tout. C'est très très business.
Vas-y, Jika. Non, c'était juste pour rebondir sur ce que vient de dire Julie. C'est autant un salon public qu'un salon B2B, la Gamescom. C'est-à-dire qu'il y a une énorme partie business. Il y a beaucoup de gens qui viennent là pour rencontrer les gens de l'industrie. Et cette année, c'était particulier parce que, en tout cas, pour le public et même nous, pour les journalistes, on avait quasiment aucun gros éditeur qui était présent. Il y avait pas Ubisoft, il y avait pas EA, il y avait pas Activision, il y avait pas Capcom. Il y avait Microsoft, tu vois, qui était là. Mais par contre, tous les éditeurs ou ces nouveaux éditeurs un peu double A, tu vois, genre THQ Nordic, Tencent, Core Media, Playon, ce genre de d'acteurs étaient là en force et du coup avaient beaucoup de choses à montrer, quoi.
Et du coup, cet aspect business dont on parle à chaque fois, nous, en tant que, bon, moi j'ai participé, je connais un petit peu, ouais, mais du point de vue d'un développeur, j'allais dire Tina, du point de vue d'un développeur, Julie, c'est vraiment le truc important qui a peut-être manqué d'ailleurs quand les salons n'étaient pas ouverts pendant la pandémie. Parce qu'on en parle toujours, on dit oui, il y a les présentations des jeux, machin, mais un des éléments hyper importants, c'est l'aspect business. Ouais, toi, tu confirmes, c'est pas pareil quand tu décroches ton téléphone pour dire « Allô, bonjour, je suis machin, est-ce que vous voulez me parler ?» de quand tu y vas et que tu peux faire du networking ou des rendez-vous en direct. Ça a une vraie importance dans l'industrie, ce type d'événement, pour l'aspect business aussi.
Ah, clairement. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais moi, je vais dire c'est quelque chose qu'on sait, mais les éditeurs travaillent avec beaucoup d'agences, et souvent pas mal d'agences créatives, agences social media, etc. Et des réunions en Zoom ou en Hangout, en digital, ce n'est pas du tout la même chose que de rencontrer vraiment les personnes. Parce que déjà, les personnes avec qui on travaille, on a besoin aussi d'avoir un lien, un fit, en fait, au niveau de personnalité, il y a quelque chose qui fonctionne bien. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à ressentir dans un call digital. Donc le fait de les rencontrer vraiment dans ce type d'événement, c'est clairement un plus.
Ouais. Et c'est un truc qui vous a manqué pendant ces quelques années. Ouais. Ah bah écoute, espérons que ça puisse continuer. Visiblement, enfin, on n'a pas encore entendu parler d'explosion de contamination suite à la Gamescom, donc espérons que ça soit gérable. Bon, j'imagine que une autre vague arrive avec l'automne et l'hiver, mais on en reparlera. Du coup, oui. Bon. L'aspect business est important, mais les jeux sont importants aussi. Et tu nous as fait une petite sélection des 5 jeux qui t'ont marqué pendant la Gamescom. Ouais. Dis-nous tout.
Ouais, ça a été chaud parce que honnêtement, je crois que j'ai vu plus de 40 jeux en 3 jours. J'ai vu vraiment énormément de jeux. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait quand même pas mal. Là, par exemple, tous les jeux que je vous ai montrés, c'est des jeux auxquels j'ai joué. Et c'est vrai que les jeux, quand t'as des démos jouables, c'est quand même plus intéressant. Il y avait une tendance d'ailleurs qui était pas dingue sur ce salon, c'est que très souvent, quand je n'étais pas jouable, c'était juste du b-roll, donc une vidéo commentée, soit commentée par une voix off, soit commentée par un développeur, donc c'est quand même plus sympa, ou un éditeur. Mais c'est vrai qu'il y avait
un développeur ou un éditeur, tu veux dire, la personne qui est là dans la salle en train de vous dire oui, il se passe ci et ça maintenant,
voilà.
Plutôt
il y a,
que
il y a la vidéo qui déroule voilà, et pendant que la vidéo déroule, t'as quelqu'un qui parle et qui prend le jeu, et évidemment tu peux lui poser des questions, c'est quand même intéressant. Là en fait effectivement il y a quand même pas mal de jeux qui m'ont bien plu, dont certains sortent là dans pas longtemps, d'autres vont sortir un peu plus tard. Je déroule dans l'ordre,
vas-y.
Alors moi en fait je pense que les deux jeux, enfin mes deux gros coups de cœur, c'est les deux jeux que j'ai notés en premier, c'est Pentiment et Under the Waves. Je commence par Pentiment, qui est peut-être le plus connu parce qu'il a déjà été annoncé il y a un petit moment. C'est un jeu Obsidian, donc le studio qui a fait Fallout New Vegas, qui a fait Pillars of Eternity, qui a fait Outer Worlds récemment, qui est spécialisé dans les RPG. Qui est un studio de Microsoft depuis quelques temps. Donc Pentiment va sortir dans le Game Pass, il sort fin novembre ou mi-novembre, je sais plus, un truc comme ça. Et par contre Pentiment a vraiment un truc très particulier, enfin là j'imagine qu'en live tu balances le trailer, mais déjà visuellement il a un look très très particulier, puisque on est sur le style un peu des enluminures du 16e siècle, je crois, quelque chose comme ça. Donc on est sur une sorte de peinture presque moyenâgeuse, et toute la représentation visuelle du jeu va se faire comme ça. Et c'est un jeu de, c'est pas un jeu de rôle, c'est pas vraiment un jeu de rôle, c'est plus un jeu d'enquête, avec énormément d'embranchements. Et moi j'ai joué, alors c'est des démos assez courtes, hein, c'est une demi-heure en général, et j'ai été complètement happé par le concept, parce que c'est un jeu d'enquête. En fait, tu es pensionnaire dans un monastère, enfin dans une abbaye plutôt, et il y a eu un meurtre, et tu dois élucider, tu dois en gros élucider ce meurtre. Et t'as plein de pistes en fait dès le début. Et comment dire, ça se passe plus ou moins en temps réel, ça se passe pas en journée, et tu sais que par exemple si tu suis telle piste, t'auras pas forcément l'occasion de suivre l'autre piste, parce que au niveau de la temporalité ça va plus. Donc en fait, c'est une énorme jouabilité.
Ce que disait Kassim la semaine dernière, les gens qui ont fait la démo ont aussi Kassim, des expériences assez différentes,
totalement différentes, très très différentes. Et ce qui est hyper chouette aussi, c'est que c'est pas un RPG, mais en fait au début tu choisis les origines, à la fois l'éducation, à la fois la personnalité, via certains traits de ton personnage principal, et ça va te donner des compétences et de l'accès à des dialogues, parce que en fait le jeu se fait essentiellement par ligne de dialogue. C'est vraiment du dialogue et des choix de dialogue qui vont permettre de progresser dans l'histoire. Et par exemple, si tu as décidé que ton personnage avait fait des études de médecine, au moment où tu vas examiner le corps de la victime, t'auras des choses en plus que tu ne verras pas si tu as décidé d'être un très bon orateur. Si tu es un très bon orateur, par exemple, tu vas être plus à l'aise pour interroger des suspects. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui se répondent et qui sont complémentaires. Et moi par exemple, j'ai fait la démo deux fois et en faisant des choses totalement différentes, et j'ai eu une expérience totalement différente. Et ça m'a vraiment emballé, parce que je trouve que le concept est à la fois très accessible, le style visuel est je trouve vraiment vraiment super, à la fois super intéressant et super cohérent avec l'époque et avec ce que ça raconte. Et puis c'est super bien écrit, quoi. C'est un jeu Obsidian, donc en général les jeux Obsidian, s'il y a bien une qualité des jeux Obsidian, c'est que c'est des jeux qui sont bien écrits. Donc voilà, je me suis vraiment régalé sur Pentiment, et j'ai vraiment super hâte de pouvoir y jouer. Mais attention, c'est pas si vous aimez Obsidian, ce sera pas un jeu de rôle hyper poussé avec 100 heures de durée de vie, etc. C'est entre guillemets un petit jeu, je crois qu'ils sont 20 à bosser, c'est un tout petit projet pour Obsidian, mais c'est hyper intéressant, quoi.
15 novembre, si je ne me trompe pas. Bien sûr, ouais, inclus dans le Game Pass, puisque c'est un jeu Microsoft Studios. Mais donc, c'est vraiment... Ouais. On va avancer, parce qu'il y en a plusieurs que tu veux, dont tu veux nous parler.
Oui, c'est pour ça, on va pas y passer.
Mais, ouais. Mais c'est vraiment, donc, tu te balades dans la zone, dans l'abbaye, voilà, et tu vas poser des questions aux gens, et puis tu vas aller voir ailleurs.
C'est ça, vraiment, c'est pas ce le gameplay d'un point and click assez classique, tu vois, où tu progresses en 2D, tu discutes avec des gens, tu t'entends, il y a des petites actions, etc. Et en termes de gameplay, en vrai, ça se rapprocherait presque d'un jeu Quantic Dream, d'un Detroit, parce que tu vois en fait, que tu sens en fait qu'il y a plein d'embranchements différents, et tu sais que voilà, si tu fais ça, tu sais que t'auras pu faire ça, mais que alors voilà, enfin moi c'est l'impression que ça m'a donné en fait avec un truc vraiment scénaristique à embranchement, ouais, avec évidemment un style graphique qui est totalement différent et peut-être un jeu mieux écrit, mais ça après c'est un avis personnel. mais voilà.
Le petit tac au passage.
En plus, Detroit, j'aime beaucoup Detroit, mais voilà.
On dit dans la chatroom qu'il n'aime pas la façon dont le texte s'écrit. Cassim nous disait la semaine dernière qu'il est possible de changer ça. Donc,
ouais, exactement. Alors, pour une question d'accessibilité, ce qui est génial, l'idée géniale, c'est que chaque caste de personnages que tu rencontres a son style d'écriture. Un paysan aura une police de caractère différente d'un noble, qui aura une police de caractère différente d'un moine. Donc ça ajoute un peu un truc un peu sympa. Mais effectivement, du coup, ça rend certaines polices de caractère un peu difficiles à lire. Et ça, c'est une option que tu peux désactiver pour qu'il y ait une police plus classique pour tout le monde, la même pour tout le monde. Voilà. Donc c'est un petit plus, mais qui est complètement optionnel, quoi.
Ça marche.
Donc voilà.
Under the Waves, qui nous avait marqué aussi la semaine dernière.
Ouais, Under the Waves, pareil. Alors, c'est marrant parce que je parle de Quantic Dream, mais c'est un jeu qui est édité par Quantic Dream et qui est développé par Parallel Studios. Et Parallel Studios, c'est un studio français. Ils avaient fait notamment White Knight il y a quelques années maintenant. Je ne sais pas si ça vous parle, qui était un jeu, un hommage à Alone in the Dark, un jeu en noir et blanc qui était très chouette, qui avait pas mal de défauts, mais qui était très chouette. Et donc c'est un jeu français, dirigé pas notamment par quelqu'un qui s'appelle Ronan Coiffec. Et Ronan Coiffec, il est breton et c'est un jeu qui parle de la mer et des fonds marins. Je dis ça parce que je l'ai interviewé et il m'a dit moi voilà, je suis d'origine bretonne et c'est vraiment un univers qui me parle énormément. En fait, c'est un projet qu'il avait dans les tiroirs depuis 10 années en fait et qu'il a réussi à concrétiser avec Quantic Dream et ouais, gros coup de cœur parce que encore une fois j'y ai joué et bon après du coup j'ai interviewé l'équipe créative. Très rapidement je le pitch, on incarne un plongeur dans les années 70 qui travaille pour une compagnie pétrolière dans la mer du Nord et qui doit en fait s'enfoncer dans la mer et pour atteindre une sorte de base, une base sous-marine. Alors c'est de la rétro SF, c'est-à-dire que c'est plus de l'Uchronie. Il y a des aspects un peu technologiques qu'on n'a pas aujourd'hui, des robots, des IA, etc. Mais dans un style visuel très rétro, très 70, donc ça marche super bien. Et en fait, ils ont créé une sorte de monde ouvert sous l'eau où on peut explorer à sa guise plein d'endroits, mais c'est un truc très narratif. C'est-à-dire qu'on va, rapidement on comprend que ce gars-là, il est pas là par hasard. Il a vécu un drame personnel qui fait qu'il a envie de s'isoler. Il est dans une situation un peu compliquée avec sa femme, etc. Donc tu sens qu'il y a plein de choses masquées. Et comme Petit Monde, c'est marrant, c'est un jeu qui va être divisé en journées. Et moi, j'ai fait la première journée. Et à la fin de la première journée, il y a un truc où il se réveille dans un sous l'eau avec une sorte de route complètement détruite et une grande baleine qui passe devant. Et on ne sait pas évidemment s'il est en train de rêver ou si. Voilà. Et voilà, c'est l'image qu'on a du trailer et la démo s'arrêtait là. Et franchement, ultra, ultra intéressant, très agréable à jouer parce que l'exploration des fonds marins, que ce soit avec le bathyscaphe ou avec une combinaison de plongée classique, elle est super agréable. Et on a vraiment très envie d'explorer tout ça. Je peux pas en dire beaucoup plus parce que j'en sais pas beaucoup plus et que je pense que c'est un jeu. J'espère que c'est un jeu à surprise, tu vois. Mais pareil, si on veut faire le jeu des comparaisons, moi, tu vois, en termes d'ambiance et de la façon dont t'interagis avec les autres, ça m'a rappelé un petit peu Firewatch, qui est un jeu que j'adore. Voilà, en termes de d'écriture, en termes de sentiment, on est tout seul, mais on a quand même un lien avec des gens à la surface, etc. C'est un jeu qui a un vrai potentiel et mais par contre, il sortira pas tout de suite. Hein, j'ai prévu pour l'année prochaine, voilà, 2023,
c'est marrant, du coup, la comparaison qui a l'air intéressante aussi que tu fais à Firewatch, parce que bien sûr, ça évoque Subnautica à plein de gens, et l'impression moi j'en ai, c'est que Subnautica, c'est vraiment un jeu à système, un jeu de survie où il faut construire un truc, autre truc, machin. Là, c'est pas le cas, c'est plus narratif.
Non, c'est pas ça. Il y aura pas de survie. Enfin, le seul truc de survie, c'est que tu as une gestion de l'oxygène que tu dois quand t'es en plongée, et c'est tout, en fait. Ils l'ont dit, hein, c'est pas du tout un jeu de survie, c'est vraiment un jeu narratif. dans lequel tu vas explorer et résoudre un mystère, un côté thriller psychologique a priori. Mais c'est vrai qu'on pourrait croire à Subnautica ou à Abzu aussi dans ce style, mais c'est assez différent pour le coup.
on peut lister la liste de tous les jeux qui se passent sous l'eau en fait.
c'est pareil. Les niveaux aquatiques de Super Mario, c'est pareil, c'est la même chose, tu vois. Ou Donkey Kong Country, c'est pareil.
Ok, donc le suivant,
Et ensuite, c'est tout. Under the Wave, pareil. Petit Mountain Under the Wave, pour moi, c'est vraiment le duo de jeux que j'ai le plus aimé à ce salon. Lies of P, on en a entendu parler parce que ça a été. On en a parlé la semaine dernière, je sais pas.
Oui, on en a parlé aussi.
Je passerai rapidement parce que je sais plus si Cassim a pu y jouer, mais moi j'y ai joué. J'ai joué une petite demi-heure et c'est super efficace. C'est clairement un clone de Blood. C'est un Souls-like plus Souls-like que ça. Tu meurs. Même au-delà de ça, c'est même Bloodborne la référence en termes d'univers. Par contre, il y a quand même de vraies bonnes idées. Déjà, c'est super carré. Enfin, là, tu vois la démo, le jeu. Je sais plus quand il sort, mais il sort pas tout de suite. Là, ce que j'ai joué, c'était super propre, très 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 beau, très agréable à jouer. Il y a quand même des bonnes idées, notamment en termes de combat. Le système de combat est ultra dynamique, encore plus je trouve que dans Bloodborne, notamment grâce à un système de fouet qui te permet soit d'attirer les ennemis à toi, soit de faire des sortes de sauts en fait qui te vont faire retomber sur les ennemis. Il y a différentes classes de persos que tu vas choisir au début qui vont vraiment changer ta façon de combattre. T'as notamment une classe un peu plus de bretteur où tu vas donner des petits coups d'estoc et tu vas être beaucoup plus sur l'esquive. Un autre truc plus classique où tu vas être un plus en mode parade, etc. Et puis un univers chouette, quoi. Enfin, l'univers est super chouette, mais encore une fois, voilà, si on aime la formule, le Souls, on va être vraiment comme à la maison, quoi. Même en termes de prise en main, c'est exactement la même prise en main en termes de boutons, etc., de mapping, qu'un Bloodborne ou qu'un Dark Souls. Et moi ça me convient hein, parce que des Souls-like, des bons Souls-like, il y en a pas tant que ça celui-là. Et celui-là, je pense qu'il y a la moyen
des Souls-like, il y en a. Des bons Souls-like, c'est plus rare.
Bah, il y en a pas tant que ça, ouais. Donc tu vois. Et le jeu sera dans le Game Pass aussi, je crois. Hein. Il me semble qu'ils l'avaient annoncé dans le Game Pass. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi.
Possible. Il sort en 2023.
C'est ça.
C'est possible. Je me souviens pas. Je t'avoue que. Ils disent Game Pass, oui, donc ça doit être le cas, ils disent Game Pass.
Non, ils l'ont annoncé, je crois, justement, parce qu'en fait, le jeu avait été montré la première fois pendant le Summer Game Fest, et il est revenu à la charge pendant l'Open Night Live, et c'est vrai que là, et ce qui était marrant d'ailleurs, c'est que, donc c'est un tout petit studio, c'est des Coréens qui développent ça.
Et, je croyais qu'ils étaient Italiens, il n'y a pas un Italien dans le lot ?
Ah, c'est possible, mais beaucoup le corps du développement c'est la Corée du Sud. D'accord. et en fait le jeu ils s'attendaient pas du tout à une telle hype et en fait ils avaient juste un tout petit stand dans la partie business où vraiment tu passais devant, tu faisais pas gaffe quoi, et en fait toute la journée ils ont vu des gens défiler parce que le jeu était jouable là quoi, et du coup ils étaient eux-mêmes surpris de cette espèce d'engouement qu'il y avait pour leur jeu parce que ils ont été mis en avant pendant l'ONL et que les gens ont vu Bloodborne 2, on va dire, le faux Bloodborne 2, quoi.
D'accord, très bien. Bah écoute, on attendra ça. Et puis encore un jeu Game Pass. Okay. Là, je t'aurais dit, bon, je suis pas sûr, mais Game Pass, là encore, pourquoi se priver ?
Toi qui n'es pas un immense fan de la formule, je sais pas trop, parce que c'est vraiment, vraiment la formule, même en termes de difficulté, quoi. C'est assez vénère et tout.
Disons que je crois que dans ma vie, il y a un avant et un après Elden Ring. Et Elden Ring, je suis prêt tout à fait à essayer. Alors que avant, je me disais que c'était à la base pas forcément pour moi, même si j'ai passé genre je sais pas une quinzaine d'heures sur Bloodborne, donc j'ai quand même tenté ma chance.
Mais quand même.
Oui, j'ai testé, j'en ai testé d'autres quoi. Bref, candidat donc, numéro 4.
Allez, le candidat 4, moi c'est un film un peu plus perso et encore, enfin, disons que c'est un jeu qui m'a beaucoup rassuré, parce que c'est un jeu qui me faisait très peur, c'est System Shock. Donc System Shock, c'est un remake d'un FPS, on va dire, oui, FPS, exploration, qui est sorti au début du... le premier, on va dire que c'est les prémices. En fait, System Shock, c'est vraiment les prémices de Deus Ex, de BioShock, et même plus récemment de Prey ou de Dishonored, etc. Donc effectivement, il y a un petit côté comme ça. Mais à l'époque, c'était vraiment assez embryonnaire, quoi. C'était plus un trip à la Ultima Underworld, mais en version science-fiction cyberpunk. Et là, ils font un remake de ce jeu. Et ça fait, le jeu, je crois que ça fait 7 ans, 7-8 ans qu'on en entend parler. Il y a eu beaucoup de problèmes. problèmes. Bon, voilà, il y avait une démo qui était sortie il y a quelques années qui était vraiment pas terrible. Là, le jeu sort bientôt. Je crois qu'il n'y a toujours pas de date de sortie précise, mais ça arrive, ça y est, enfin.
10-2022, franchement, donc ça devrait
ouais, être voilà. Tard, normalement, il sort cette année. Et j'étais super rassuré parce que déjà, je trouve qu'en termes d'ambiance, c'est assez chouette. Donc, c'est une sorte de FPS. De là à dire que c'est un immersive sim, je pense pas que ce soit aussi ouvert que les références que j'ai citées tout à l'heure, mais on va quand même être un jeu où t'auras du hacking, t'auras l'infiltration, t'auras du combat, etc. Dans une ambiance très 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 science-fiction, mais pas horrifique, mais presque, tu vois, un truc assez pesant, assez anxiogène, où tu vas explorer une base qui a été dont une IA a pris le contrôle, et donc tous les robots, etc., que tu vas croiser sont évidemment un petit peu belliqueux. Voilà, il y a vraiment une très bonne ambiance si on aime. Il y a un style graphique qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un moteur qui est moderne, mais ils ont gardé quand même quelques éléments avec un tout petit peu de pixel art. En fait, c'est un mélange qui fonctionne, je trouve, très bien, qui rappelle un peu les origines du jeu, tout en ayant quelque chose de très moderne, et pareil, en matière de prise en main, c'est assez intéressant. Donc j'étais vraiment rassuré par ma prise en main de System Shock, qui à la base est quand même un univers que j'aime bien.
Je dis 2002, c'est une bêtise, hein, ils n'ont pas donné de date, donc ne commencez pas à vous frotter les mains.
Non, effectivement. Mais bon, normalement, là, on est quand même sur la fin, hein, ça y est. Hein.
Ouais, espérons. Et du coup, le dernier, c'est le dernier. Decarnation, dont je crois Decarnation. Que je n'ai pas entendu parler avant.
Bah écoute, ouais, parce que il était un tout petit peu passé sous le radar. Moi en fait, je l'avais repéré pendant le PC Gaming Show, donc en juin dernier, notamment quand ils ont présenté des jeux édités par Shiro Games. Donc Shiro Games, c'est des Français, c'est eux qui ont fait des jeux de stratégie, War Tales, Dune Spice War, ce genre de trucs, c'est eux. Et ils ont aussi un petit label à côté où ils éditent des jeux un peu plus indépendants. Et Decarnation, c'est Decarnation, parce que c'est un jeu français, donc on dit Decarnation. Oui. Je sais pas si c'est un mot
oui,
français,
non, mais bon. Très bien. Approuvé.
qui est un jeu, pareil, là, si vous aimez les délires à la horrifique en 2D, avec un petit côté très... en fait, ce qui est intéressant, c'est que la démo, j'y ai joué avec, à côté de moi, le directeur créatif, on n'était que deux dans la salle, et vraiment, on a beaucoup discuté pendant la démo, et lui, ses références, c'est beaucoup de cinéma, c'est le cinéma David Lynch, le cinéma d'Aronofsky, c'est Silent Hill aussi, côté jeux vidéo, etc. Et là, on est vraiment sur un truc comme ça. Un jeu très narratif, avec quand même du gameplay, d'infiltration, etc., des mini-jeux, où on va suivre, en fait, le destin d'une jeune femme dans les années 90, je crois, à Paris, qui essaye en fait de percer dans le milieu du cinéma, du spectacle, etc. Et bon, voilà, tu sens qu'il y a une sorte de réalité qui se mélange à du cauchemar. C'est difficile d'en parler parce que déjà, j'en ai suffisamment peu vu au niveau du scénario pour vous en parler. Et je pense qu'il y a beaucoup de surprises à avoir. Il faut aimer évidemment ce trip. Et en fait, visuellement, je trouve ça hyper intéressant. C'est de la 2D presque JRPG des tu vois, époque 16 bits, 32 bits. Mmh. Mais avec quand même un côté horrifique très prononcé, avec des trucs assez chelous et assez crado par moment. Moi, c'est un jeu qui m'intrigue beaucoup et auquel je jouerai très certainement avec plaisir. Et j'ai conscience que voilà, c'est pas forcément pour tout le monde, quoi.
Ouais, c'est peut-être celui qui est le moins pour tout le monde, un petit peu,
ouais,
un petit peu
dans la liste probablement. Ouais. Dans la liste, ouais, dans la liste. Mais si voilà, ouais. si vous aimez les jeux d'horreur en deux, avec un truc très psychologique, avec de la 2D, enfin avec une belle 2D, ouais. Je pense que c'est un jeu à surveiller, quoi.
C'est vraiment un style graphique. On a l'impression de voir, ouais, comme tu disais, un RPG 16 bits, quoi. C'est en beaucoup
ouais,
plus beau.
Mother ou les jeux comme Earthbound, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Mmh. Ouais, et moi, j'aime bien ce style-là. En fait, j'aime bien quand c'est un truc qui paraît mignon et kawaii et qui part en quelque chose de très très dark d'un seul coup. Quoi, parce que ça donne une espèce de dissonance intéressante, quoi.
Ouais, mais dans un style, c'est pas genre dégueulasse mignon comme Cult of the Lamb, c'est dégueulasse, mais en 16 bits.
Ouais, voilà,
c'est un peu bizarre.
Ça, exactement. Ouais, c'est très intéressant. Je ne vais pas tout parler. Je suis en train de revoir la liste des jeux. Bah, Halo in the Dark, j'ai pas vu grand chose.
Ouais, Atomic Heart qui m'a donné une sorte de d'attaque cardiaque rien qu'en regardant le trailer.
Ça, je n'ai pas vu Atomic Heart.
Tu l'as pas vu ? Snakoon qui est le raton laveur qui va chercher à bouffer partout dans la ville. C'est genre Stray mais avec un raton laveur. Ça a l'air moins abouti quand même. Il y a quelques trucs. Il y a aussi un truc qui n'est pas du tout un jeu de la Gamescom, mais qui est un jeu qui s'appelle Squirrel with a Gun. Qui est exactement ce qu'il dit, qui est un écureuil, merci Julie, un écureuil mais genre relativement photoréaliste avec un flingue, genre de la taille d'un flingue photoréaliste. Et c'est genre, okay, il se balade avec un flingue. Okay. Il y a de la. Genre, si tu utilises un. Quand tu tires, ça peut te permettre de te déplacer ou de te déplacer dans les airs. Enfin bon, c'est un truc qui est en développement, qui a été présenté à peu près au moment de la. Mmh. Et c'est complètement n'importe quoi, mais ça m'a fait marrer.
Non, moi, j'en passe une toute dernière vraiment en une minute sur un jeu, ouais, que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est Evil West qui sort à la fin de l'année, je crois. Le truc c'est qu'il y a eu Hard West, il y a eu Weird West, et là maintenant il y a Evil West, c'est n'importe quoi.
Le FPS, tout à fait, qui a l'air vraiment péchu.
C'est plutôt un TPS, et c'est développé par les gens qui ont fait Shadow Warrior, donc qui font des FPS, et ça sort là. Son gros défaut, c'est qu'il sort une semaine après God of War, et il y a énormément de God of War dans ce jeu. Voilà, c'est un peu son problème. C'est-à-dire que c'est un TPS avec pas mal de corps à corps aussi, avec une caméra qui rappelle beaucoup God of War, avec un système de combat qui rappelle God of War, mais qui est ultra efficace dans un univers western très série B, tu vois, très 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 over the top, où on va se battre contre des vampires, des vampires au Far West. Donc bon, au niveau du scénario, faudra pas s'attendre à la grande écriture, mais par contre c'est ultra péchu à jouer. J'ai trouvé ça très cool, et enfin vraiment c'était une très bonne surprise. Voilà, son seul problème c'est qu'effectivement il arrive juste après God of War Ragnarok. Même si ça se trouve, God of War Ragnarok va peut-être être un mauvais jeu, mais j'en doute quand même.
Disons qu'il va prendre de la place au niveau médiatique. Voilà. Je pense qu'on va plus entendre parler que Evil West. Mais il m'avait frappé aussi pendant sa présentation. Ouais. C'était au Summer Game Fest, je crois. C'est l'un des jeux dont je m'étais dit « Ah, ça a l'air intéressant, ça. » C'est vraiment double A débile, mais ça a l'air...
Un petit double A, enfin un double A dans le sens, c'est assez linéaire, tu vois, t'auras pas de monde ouvert, etc. Mais par contre, c'est vraiment péchu. Il y a l'air d'avoir plein de bonnes idées en termes de d'armes, de compétences, de systèmes de combat. Et vraiment, j'ai été très agréablement surpris par la démo que j'ai faite, quoi.
Très bien. Donc, Evil West, c'est en novembre, du coup. Il a été...
Exactement.
Merci beaucoup, Jika, pour ce rapport exhaustif. C'était hyper intéressant. Julie, du coup, est-ce que tu peux attribuer le prix Julie Jeanniot du jeu de la Gamescom de Jika ? Lequel
te... Oh là là. Moi, j'en aurais cité d'autres, mais...
D'accord, mais vas-y, si, c'est beaucoup plus intéressant.
Après, c'est cette Gamescom, et c'est ce que je disais tout à l'heure, moi, elle ne m'a pas trop emballée. J'avoue que je n'ai pas eu de grosses annonces qui m'ont vraiment hype. J'étais contente d'avoir des nouveautés sur Hogwarts Legacy, qui est un jeu que j'attends quand même avec impatience.
Beaucoup de gens. C'était maigrichon quand même sur Hogwarts Legacy.
Oui, c'est pour ça que je suis un peu déçue. Mais j'ai été intriguée par Dune Awakening, qui est du coup un MMO de survie. Et moi, j'aime bien les MMO et j'aime bien les jeux de survie. Du coup,
c'est pour
j'attends dans...
C'est celui-là, le prix Julie Jeanniot du jeu de la Gamescom.
C'est ça. Après, j'ai toujours peur des adaptations, peu importe le sens, des différents univers qui existent. Ça me fait un peu peur, mais à voir ce que ça donne. En tout cas, j'espère qu'il sera bien. J'arrête d'essayer de me hyper trop sur les jeux, parce que souvent, je suis déçue après.
Mais
donc
le
là,
contexte,
je veux dire, je m'attends à rien.
Le contexte, l'idée est cohérente, quoi. Survie sur Arrakis avec Dune, ça peut tout à fait fonctionner. Après, il faut que le jeu soit bien sûr.
Non, l'idée est trop bien. Vraiment, l'idée, elle me hype. Mais il faut plus que l'idée, et surtout dans un MMO. Enfin, moi, je suis très très fan du genre, mais il faut vraiment que ce soit bien fait pour que. Et puis, il y en a tellement aujourd'hui qui sortent.
Ouais.
Enfin, en vrai,
et
tellement.
Des jeux de survie, il y en a
ça,
des tonnes.
Mais... Ouais, c'est ça. Donc, il faut que ce soit bien fait. Et donc, j'attends de voir. Mais en tout cas, c'est celui-ci, moi, qui m'a le plus intrigué.
Je dirais que le truc, quand même. Ce qui est à garder à l'esprit, c'est qu'on a vu un trailer et pas du tout de jeu. Donc, c'est une note d'intention, en quelque sorte.
Ouais, donc, je confirme qu'il n'y avait pas de présentation du jeu côté salon ou côté journaliste. Hein, donc, voilà, il n'y a pas grand-chose.
Cette Gamescom, elle me laisse un peu sur ma faim, en fait. C'est un peu le sentiment que...
La caractéristique de ce salon qui est placé dans le cycle marketing de l'année de telle manière que si on n'y est pas et qu'on n'a pas les jeux à tester, c'est un petit peu moins excitant que les autres salons, quoi. Et c'est pour ça que... Ouais. Mais bon, Dune Open World Survival MMO, pourquoi pas Dune Awakening. Il y a autre chose ou c'est à peu près tout?
Non, pour ma part, c'est à peu près tout. Je commence à connaître un peu mon style de jeu et je suis très jeu online et multijoueur. Donc,
c'est ça, on s'arrête là. Et du coup, on va passer rapidement sur les quelques dernières news qui nous ont marquées. Avant de conclure l'émission, il y a un leak de la fameuse console Ubisoft. C'est avec qui la font, Tencent ou NetEase? C'est l'un des deux.
C'est Logitech aussi.
C'est ça, la console Logitech de streaming, qui est une sorte de Switch prévue uniquement pour le streaming. Et il y a une sorte d'Android adapté dedans. Elle a l'air, si c'est le leak est authentique, c'est une console qui n'a pas l'air ultra premium, on va dire ça comme ça, mais du coup, le prix devrait être en adéquation. C'est blanc, il y a des gros bords sur l'écran. Et c'est un petit peu en style Switch, sauf qu'on ne peut pas décrocher les manettes, à voir ce que ça donne. Mais le leak était un petit peu inattendu, encore qu'ils seront peut-être, ils vont montrer ça au Ubisoft Forward. C'est quand? C'est le 10, je crois, Ubisoft Forward, en septembre. On parlait de God of War, ils commencent à en parler un petit peu. Ils ont fait un Game Informer, c'est le cover story de Game Informer. Bon, il n'y a pas grand-chose comme détail, mais du coup, ça m'amène à vous poser la question. À votre avis, quand est-ce qu'on aura enfin ce PlayStation Showcase de septembre, qui est a priori qui devrait arriver, et on va enfin nous parler de God of War Ragnarok? Le jeu sort dans 2 mois, on n'en a quasiment rien vu. Est-ce que vous imaginez ce... Oui, JK?
Non, je peux te laisser finir, mais là, en fait, je pense que le focus pour Sony, c'est du début du mois, c'est The Last of Us, et une fois que The Last of Us sera sorti, sera digéré. Moi, je pense qu'ils vont rapidement enchaîner. En fait, ils vont vouloir occuper le terrain. Donc, j'aime pas faire ça, mais je prends des paris à la con. J'imagine que vers mi-septembre, on aura peut-être des nouvelles, tu vois.
Ah oui, moi j'imagine que c'est soit la semaine prochaine, soit celle d'après. Hein. La semaine prochaine, il y a Apple, donc ils vont peut-être, tu vois, faire un petit peu de côté et faire celle d'après.
Ouais.
Bon, peut-être. Julie, bien sûr, elle dit rien parce qu'elle a des informations secrètes qu'elle ne peut pas révéler de ses relations privilégiées avec Sony, avec Yuan Dong.
Tellement.
La hausse du prix de la PlayStation 5 a bien sûr fait beaucoup parler. Je mentionnerai juste un truc, c'est l'article de Gamekult signé Oscar Lemaire, qui connaît son affaire, qui semble confirmer ce que je disais la semaine dernière, c'est que vraiment les conditions économiques, ça a l'air d'être une bonne excuse pour enfin pouvoir augmenter le prix d'une console qui se vend plus qu'il n'arrive à en produire. Et je crois que la véritable raison, c'est plutôt celle-là. Alors, il y a une question de profit et de croissance, évidemment. Sony n'est plus une société qui a changé au cours des générations de consoles précédentes. Mais oui, ça me surprend pas que la conclusion, ça soit, a priori, c'est pas que la console coûte tellement plus cher à faire et que le taux dollar-euro fait que, oui, bien sûr, ça joue, mais bon, c'est qu'ils les vendent, quoi. Et elle pourrait rebaisser de prix si la situation change. D'ailleurs, un indice, c'est que là où ils ont une vraie concurrence avec leur concurrent Microsoft, aux États-Unis, le prix ne monte pas. Ça montre bien que s'ils sont en danger, ils ne montent pas le prix. D'ailleurs, c'est marrant, Microsoft et Nintendo ont dit « Non, nous, on ne monte pas le prix. Hein. Il n'y a pas de prévision de prix monté. » Et entre-temps, il y a une nouvelle version de la PlayStation 5 qui commence à être disponible en Australie, qui arrivera ailleurs. Qu'est-ce qui change? Elle est un peu plus légère, 200 ou 300 grammes en fonction du modèle.
Voilà.
J'imagine qu'il y a un changement du système de refroidissement, ce genre de truc, mais... Ça va pas
j'avoue que j'ai pas creusé plus que ça,
mais
je vois pas trop quoi. Ouais, ce qui peut faire qu'elle est plus légère. Quoi. Après, ouais. Bon, sur une console de salon qui est posée sur un meuble, bon, c'est pas très intéressant, c'est pas un intérêt fou quoi.
Non, moi je pense que c'est pour eux, tu vois, c'est un modèle qui coûte un peu moins cher à faire, genre tu réduis de 5 euros le le prix de fabrication en mettant moins de métal dedans, bah, ça te fait 5 millions quand t'en vends 1 million. C'est pour ça, je pense. Et on continue sur Sony. Ils ont investi avec Tencent dans From Software. À eux deux, ils possèdent d'aujourd'hui 30% de la société. Kadokawa, qui est l'autre actionnaire, a toujours 69%. Mais c'est intéressant de voir que Sony investit dans From Software parce que bah, ça peut peut-être vouloir dire que un petit peu plus d'exclus pour Sony, un Bloodborne 2 qui bah, oui. Serait en développement ou bon, on ne sait pas.
Bah regardez Demon's Souls, c'est pas, enfin même si c'est pas développé par From, mais c'était une exclue Sony, hein, donc pourquoi pas un remake, même un remake de Bloodborne, je pense que les gens seraient preneurs, hein, donc
ah oui bien sûr.
À voir.
Le combo là, si tu étais prêt à prendre des paris, combo remake Bloodborne ou au moins sortie PC plus Bloodborne 2 dans la même année en 2023. Ouais.
Non. Les deux, je pense pas. À mon avis, un des deux éventuellement, mais les deux, ça me paraîtrait quand même un peu. C'est pas, en plus, c'est pas un si gros studio que ça. Alors, je pense que Bloodborne 2 sera. Enfin, le remake de Bloodborne, s'il existe un jour, il sera délocalisé.
Non, mais c'est Sony qui le fait. Oui, c'est ça.
Oui, et From Bluepoint ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Je sais pas.
Et Quantic Dream a été racheté par NetEase. Bah voilà, Tencent, NetEase. Je crois qu'il n'y a pas un épisode où on parle pas de ces deux sociétés.
C'est ouf.
D'ailleurs, bah oui, on a Riot à la maison là, donc effectivement, on parle de Tencent aussi. Information beaucoup plus importante que tout ça, il semblerait, je veux pas vous donner de faux espoirs, mais il semblerait qu'il y ait un intérêt à la fois du côté de SNK et de Capcom pour peut-être à un moment ressusciter la franchise Capcom versus SNK. Et là, je peux vous dire que je serai client ou même Yankli, comme disent les jeunes, mais de la première heure, quoi. C'est un truc sur lequel je sauterai complètement. Bien sûr, tous les deux, vous seriez avec moi à la précommande version, comment on dit, collector. On est d'accord.
C'est évident. Je ne sais même pas de quel jeu tu parles. T'as parlé. Mais oui.
Capcom versus SNK. Capcom versus
oublié.
SNK.
Non,
j'ai aucune idée de ce que c'est.
Moi, j'ai un très bon souvenir sur Dreamcast, mais voilà, c'est tout. Ça s'arrête là.
Je ne sais même pas si j'étais né.
Bah, c'est un jeu qui est.
Oh, quand même.
C'est sans doute pas, puisque c'est un jeu qui est sorti il y a 20 ans, Julie.
Ah,
mais...
si j'étais né. Mais c'est gentil.
Non, moi, je dirais, maintenant, étant donné que Riot travaille sur un jeu de combat aussi, je pense que ça fait partie de l'histoire, tu vois, des jeux de combat qu'il faut... Bon, je plaisante, évidemment, c'était un jeu relativement mineur dans son succès, mais le fait que c'était des personnages des jeux Capcom contre des personnages des jeux SNK, c'était forcément un fantasme à cette époque qui était devenu réalité. Et bon, je crois que ça ne parle qu'aux nostalgiques de cette époque, peut-être. Bon, il y a des jeux qui sortent en septembre, dont Shovel Knight Dig. Je regarde les jeux qui sortent en septembre, il y en a une tripotée. Et y a vraiment de quoi faire. En plus des sorties d'aujourd'hui, hein, Last of Us et Immortality, ou c'était peut-être hier, Immortality. On a quoi ? C'était hier. On a Temtem qui arrive, le faux Pokémon. On a Biomutant qui arrive le 6, qui est un jeu où on peut se transformer. Enfin, bon, je vais juste mentionner
Biomutant,
les jeux.
C'est un portage parce qu'il est déjà sorti, Biomutant.
Ah oui, pardon, c'est le portage PS5 et Xbox Series X. Pardon.
C'est un jeu pas terrible d'ailleurs. Enfin,
ouais. NBA 2K23, Splatoon 3, quoi d'autre ?
Je l'avais complètement oublié, Splatoon 3, tu vois, c'est vraiment incroyable.
Ouais, il arrive bientôt. Grounded, qui arrive en version 1.0. Hololife, qui lui. On avait parlé il y a un moment, qui est une sorte de...
Animal Crossing-like,
okay. Merci. Heureusement que Julie est là. Quoi d'autre Et il y en avait deux autres, je crois.
Il y a quand même Return to Monkey Island, quand même, hein, Patrick, enfin. Non, mais arrête de rire, attends, c'est hyper important.
On aurait presque pu penser que je l'avais fait exprès. Presque.
Ah oui, je sais.
Return to Monkey Island, effectivement. Donc, il y a des choses qui arrivent. Quoi d'autre ? Il y a des rumeurs sur un Assassin's Creed Mirage qui serait annoncé à l'Ubisoft Forward, qui serait avec le personnage de Basim de Assassin's Creed Valhalla, qui était censé être une extension, un DLC de Valhalla, mais qui a été transformé en jeu. C'est le fameux Assassin's Creed Rift. On en saura un petit peu plus dans quelques jours, si les rumeurs sont justes, sont vraies. Quoi d'autre ? La console préférée de JK, le Steam Deck, peut désormais faire tourner 10% des jeux Steam. Quand même impressionnant.
Wow. Mais c'est vrai que, et pour le coup, je l'utilise énormément, et tous les jours, je le vois, il y a un nombre de jeux mais hallucinant, et il y a même vraiment de plus en plus de jeux qui ne sont pas... par exemple, Immortality, je l'ai lancé sur Steam Deck, il tourne très bien, alors qu'il n'est pas marqué compatible Steam Deck. Spider-Man PC, on n'en a pas parlé, mais sur Steam Deck, moi j'ai passé mon été à y jouer sur PC sur Steam Deck, il tourne super bien. C'est vraiment, moi je vais vraiment de bonnes surprises en bonnes surprises avec cette machine qui est capable de faire tourner des trucs assez, assez dingues, quoi.
Spider-Man sur PC, tu y joues sur Steam Deck, oui, c'est impressionnant.
Ouais, et c'est très agréable à jouer sur Steam Deck.
La vraie tragédie, vous le savez, c'est que Destiny 2 ne tourne pas sur Steam Deck. C'est ça le problème.
Ah ouais, ouais. Il est dispo sur Steam ou pas, Destiny 2?
Oui, oui, tout à fait, mais il y a un problème de...
Il tourne pas?
Non, c'est un problème de d'anti-cheat. Qui n'est pas compatible avec Steam Deck. C'est
dommage.
Le problème. Ouais. Nvidia va bientôt sortir ses RTX 4000. AMD a déjà annoncé ses Ryzen série, c'est quoi ? C'est 7, je crois.
C'est 7000, ouais.
7000. Et Nvidia va bientôt annoncer ses RTX 4000. Le truc, c'est qu'ils ont des stocks de RTX 3000 et ils sont censés annoncer les 4000 là bientôt. Donc, JK, j'imagine que tu surveilles ça pour en informer les lecteurs de jeuxvideo.com. Il y a
il y a de plus en plus de deals intéressants. Je pense qu'honnêtement, il va y avoir les 4000 qui vont sortir, après, on connaît pas les specs des 4000, hein, mais c'est quand même le bon moment, je pense, pour trouver un GPU pas trop cher. Et honnêtement, après, ça dépend de la carte graphique que vous avez aujourd'hui, mais si vous avez un truc vieillissant, genre une série 10, une 1070 ou un truc comme ça, passer à une RTX 3000, ça peut être vachement intéressant parce que ce sera, avec un bon prix, au lieu d'attendre la 4000 qui vont sans doute être beaucoup plus cher, ça vaut peut-être le coup d'investir dans une série, dans une 3070, une 3080, maintenant, quoi.
Plus ça consommera énormément, d'après les rumeurs, les RTX 4000. Et c'est le cas aussi des Ryzen 7, hein, entre parenthèses. Mais ils sont bien. On parlait de 20 à 30% de performance en plus sur les Ryzen série 7. Ça vaut le coup
donc... Ouais, je les ai pas testés, donc je pourrais pas te dire. Mais normalement, a priori, si on se base sur les précédentes générations de Ryzen, ça va rester les meilleurs pros pendant quelques temps, jusqu'à ce que Intel peut-être dans 6 mois sorte les séries 13. Mais ça reste des excellents CPU pour surtout pour le jeu vidéo. Donc encore une fois, c'est comme pour Nvidia, ça dépend du processeur que vous avez aujourd'hui. Si vous avez un RTX, un Ryzen 4000 ou 5000, ça vaut peut-être pas le coup de passer à du 7000, plutôt du 5000, bref, je dis des bêtises, mais à voir.
Moi, je suis sur Ryzen 5, effectivement, et j'en suis très content. Quoi d'autre ? Bah, écoutez, je pense qu'on va à peu près arriver à la fin. Petit détour par le ciné, le tournage de la série Twisted Metal est terminé. Je ne savais pas qu'il avait commencé, je savais que la série était prévue, mais
Twisted Metal, une série Twisted Metal.
Qu'est-ce qu'ils vont... Peut-être, hein, mais...
Qui produit ça ? C'est
je sais plus. Attends. Je t'avoue que je crois que c'est
sur une plateforme.
C'est une plateforme américaine, je crois. Attends, je vais pas te dire de bêtises. Tac. Je ne me souviens plus.
Bref, c'est un truc très américain, hein, tout style metal, donc.
Clairement. Et bon, bah écoutez, on le verra arriver bientôt. Horizon Zero Dawn a été confirmé par Netflix. On avait des rumeurs et on sait maintenant que c'est Netflix qui va produire. Par contre, Netflix a annulé la série Resident Evil. J'ai pas eu le temps de regarder le premier épisode.
Ouais. Apparemment, ouais. Moi, je voulais la voir juste pour voir l'ampleur du désastre, mais je sais même pas si j'aurai le temps, quoi.
Ouais.
Mais ce que je vois, c'est que la série Twisted Metal, le seul truc bien, c'est que c'est produit. Et c'est le showrunner, c'est le même que celui de Cobra Kai, qui est une super série. Donc peut-être que ça va être une bonne série, on ne sait pas.
Écoute, à voir. Effectivement, Cobra Kai est fait avec beaucoup de délicatesse, je dirais.
J'adore Cobra Kai. Ouais.
Et c'est vraiment une série maligne par rapport à son héritage.
Ouais, exactement. Bon,
à voir. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu le trailer de Cyberpunk Edge Runners qui arrive sur Netflix. Julie réagit. Ça t'a parlé ?
Ouais. Je sais pas. Il est un peu violent. Non, mais en fait, je l'ai regardé, j'ai vu le truc Not Safe for Work, etc. Je me suis dit, ça va, j'ai regardé Game of Thrones, etc. Je connais les trucs un peu trash. Et putain, c'est super violent, quoi.
C'est vraiment
hyper violent.
Ouais, c'est ça. Je suis assez d'accord. J'ai l'impression que c'est une série qui te dit, mais regardez comment on est edgy. Ouais. Edge. On est edgy. T'as pas compris, on est edgy. Je te mets mon poing dans la gueule.
Ouais, c'est exactement ça, j'avais l'impression que c'était fait dans la provoque, le choc à fond dans le trailer, et du coup finalement ça m'a pas vraiment donné envie de regarder la série, je trouve.
Ouais, je suis un petit peu sur la même ligne que toi, et en même temps je me dis c'est tellement fou, je me demande si c'est pas un truc du genre, je sais pas si vous vous souvenez de Natural Born Killers, qui était un petit peu fou, ouais, comme bah oui. Film, bon, la différence c'est que ça dure une heure et demie, ouais, et puis c'est terminé.
Ouais.
Ouais, non, ça te parle ?
Moi, je trouve que, en fait, t'as l'impression que c'est une espèce d'Akira, mais avec Akira, ouais. Qui aurait pris du speed, en fait.
Ouais.
C'est, ce qui en soi pas une mauvaise chose, qui est déjà Akira, c'est quand même bien vénère. Mais alors là, ça a l'air de. Moi, je trouve que visuellement, ça a quand même une bonne gueule. Ça a une gueule de, encore une fois, tu sens le modèle Akira, quoi, mais avec un vrai travail derrière, donc à voir.
Ouais.
Ah non, mais clairement, l'animation a l'air super belle, par contre. Mais moi, c'est juste le. Je sais pas. En fait, le fait que ce soit autant violent, le trailer, ça m'a un peu...
J'imagine que la série entière peut pas être comme ça. Tu vois, là, ils ont fait un trailer. Justement.
C'est un montage spécialement pour montrer que, oui, c'est, ça va être vénère, mais oui.
Et du coup, ça marche, parce qu'on en parle, et on a été intrigués, on a été... Alors, je sais pas si... disons que... Si, quand elle sort, il y a des gens qui disent « Ah ouais, c'est pas mal en fait », peut-être qu'on y repensera et qu'on se dira « Bon, bah, je vais aller le regarder parce qu'on s'en souviendra ». Et du coup, de cette manière, le trailer est peut-être pas trop mal fait, quoi. À voir. Ça s'appelle Cyberpunk Edge Runners et ça arrive en septembre, le 13 septembre, sur Netflix. Et n'oubliez pas qu'il y a des trucs gratuits sur plein de plateformes. Alors, on a parlé du Game Pass, il y a aussi des choses sur le PlayStation Plus. Vous pourrez aller voir de quoi il s'agit. Mais moi, je veux mentionner Amazon Prime, qui va vous offrir plusieurs trucs, dont Middle-Earth Shadow of Mordor, ce qui est quand même à propos, vu qu'il y a la série Lord of the Rings, enfin Rings of Power qui arrive, et que Shadow of Mordor est un excellent jeu que je recommande à tout le monde depuis sa sortie, il y a quoi, ça doit faire 10 ans, j'adore Mordor maintenant, mais que je vous recommande. Donc là, vous pourrez l'avoir gratuitement au mois de septembre si vous êtes abonné à Amazon Prime. Donc, jetez-vous dessus. Et voilà, on a fait un épisode du rendez-vous jeu. Quel bonheur de l'avoir passé en votre compagnie, délicieuse à tous les deux. Merci d'avoir été avec moi. On va s'interrompre puisque J.K. trépigne et veut retourner jouer à Immortality.
Ouais.
Donc, on va le libérer.
Ouais, en bref, il faut que je retourne travailler, surtout. je préfère jouer à Immortality, je ne vais pas te mentir. Hein,
mais c'est pour le boulot, c'est un jeu vidéo. Tu travailles dans une société.
Oui, mais je ne l'ai pas testé. Ouais, ce n'est pas moi qui l'ai testé. Donc, techniquement, oui, je pourrais dire que c'est pour le boulot, mais il faut que je trouve une excuse. Genre, je fais un benchmark d'Immortality, je ne suis pas sûr que ça marche. Tu vois.
Ouais. C'est pas le truc le plus demandeur de hardware.
Non, pas trop, non.
Moi, quand j'étais chez Blizzard, on faisait de temps en temps, genre, on testait des jeux de concurrents, on disait, on lançait les MMO du moment, on disait ouais competitive research, tu vois, et notre manager au bout d'un moment elle a dit les gars, faudrait peut-être c'est peut-être donc on a dû arrêter. Donc bon, je ne saurais te le recommander vraiment, c'est visiblement pas très accepté dans les sociétés sérieuses. Mais ce qui est accepté et recommandé, c'est de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. Julie, où es-tu sur Internet en ce moment ?
Moi, c'est toujours, encore et toujours Twitter, sauf que le hat a changé. Maintenant, c'est RiotFR_Tina. J'ai décidé de retirer mon prénom et mon nom.
Ouais, voilà. Tu sais que, et peut-être du coup que je devrais pas le dire à tout bout de champ, mais...
non, tu peux, il n'y a pas de problème.
Mais j'ai été très perturbé en cherchant ton compte Twitter, je ne sais plus pourquoi, il y a un ou deux jours.
Ah oui.
J'ai dit, mais où est-elle? Que se passe-t-il?
J'ai disparu. Non, ouais, j'ai changé, je me suis dit que sur les réseaux sociaux, j'allais faire un peu plus d'attention maintenant, et voilà.
Je comprends. Donc, RiotFR _ Tina, on mettra le lien dans les notes de l'émission. Et J.K., où es-tu, toi ?
Mais écoute, ça n'a pas changé. On est toujours sur jeuxvideo.com pour de la tech, hein, essentiellement, un petit peu de jeux vidéo de temps en temps. Mais bah, notamment là, sur la Gamescom, j'ai évidemment publié pas mal de choses. Et il y a des choses qui vont arriver encore, qui sont sous NDA, donc je peux pas parler, mais qui vont arriver dans les jours à venir. Je peux juste te dire, parce que ça, j'ai le droit de dire que j'ai joué à Scorn, par exemple, mais je n'ai pas le droit de dire ce que j'en ai pensé. Donc voilà, j'ai le droit de le dire, mais je peux pas en dire plus. Donc faudra attendre un petit peu pour savoir connaître mon avis sur le jeu. Donc voilà, jeuxvideo.com, ZQSD bien sûr, on a fait un petit numéro dans le train à l'aller de la Gamescom, c'est-à-dire un truc qui dure 30 minutes, c'était vraiment une sorte de pré-show.
On a vu tourner les photos qu'a envoyé Oupi partout sur tout l'internet français.
Ouais, c'était un délire parce qu'on a fait ça dans la voiture bar, donc bon, il y a un fond sonore assez bruyant parce que tout le monde s'est retrouvé. Bah, comme je disais tout à l'heure, c'était dès le train, en fait, c'était festif à Gamescom, tu vois. Il y avait vraiment tout le monde dans le train qui se retrouvait pour discuter et tout, pour prendre le petit déj, c'était rigolo. Et on va faire un numéro bilan de la Gamescom très vite en septembre, là, normalement, bientôt. Et puis, voilà, quoi dire. Oui, si dernière chose, il y a le journal du hardware qui reprend le JDH, hein, sur le stream, qui reprend jeudi prochain. Ça, l'heure a changé, le jour et l'heure, le jour change. C'est jeudi de 16h à 18h, donc j'y serai évidemment avec un grand plaisir.
Parfait. Et sache que je pense très fort à une émission spéciale sur For All Mankind dont on parlait sur Twitter.
Ah bah carrément.
À un moment, il faudra carrément qu'on se fasse ça. Série incroyable.
Tu me dis, je me libère, j'aimerais vraiment en parler. Parce que c'est une série, j'ai l'impression que les gens regardent, mais il y a plein de gens qui ne l'ont pas vue. Et du coup, je ne peux pas en parler forcément avec beaucoup de gens par rapport à ceux qui ont tout vu. Donc voilà.
On se fera une petite partie minime sans spoiler. Et puis après, juste parler de spoiler et de ce qu'on a pensé de chaque truc. Ouais. Ça marche.
C'est ça.
On se fera ça à un moment. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents avec moi. Merci aussi à Florian. Pour ma part, c'est NotePatrick sur tous les réseaux sociaux et notepatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais. Vous avez aussi les liens vers le Discord où on s'amuse beaucoup dans la communauté des émissions, dans les notes de l'émission d'ailleurs, vous avez le lien vers le Discord, vers Twitch également, le Twitch où on fait les émissions en live, le rendez-vous tech le mardi midi et le rendez-vous jeu le jeudi midi. Et puis bien sûr, si vous voulez soutenir l'émission, c'est sur Patreon, patreon.com/rdvjeux. Et vous avez les bonus super cool, incroyables que vous connaissez. Alors, quand vous rentrez chez vous, si vous ne l'avez pas déjà fait sur votre téléphone mobile, vous abonnez tout de suite. Quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol et ça fait cling. Et là, vous dites, mais Patrick, comment ai-je pu oublier Patrick? D'ailleurs, J.K. m'avouait que maintenant, à chaque fois qu'il met les clés dans son bol, il pense à moi. Donc, ça me fait plaisir.
Exactement, oui. T'as tout à fait raison. Je ne vais pas te contredire, n'est-ce pas?
Je vous remercie tous de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous dans une petite semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
Salut.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.